Wild, l'émission. Présentée par Benjamin Warlop et Fleur Thierry.
Ça va, Flore?
Ça va et toi?
Ça va super bien. Tu sais que je suis totalement fétiche ce soir.
Ah oui, c'est dans la thématique.
Que c'est la thématique, c'est le thème de cette émission. Ce soir, j'en profite pour dire bonsoir à la room qui nous écoute en direct sur wild.com et en simultané en Facebook Live sur notre page Facebook. Bonsoir à tous. Flore porte un joli collier de soumise.
Oh, mais il y a des gens qui ont, qui ont l'œil rapide, l'œil vif.
Ouais, la semaine dernière, on a parlé BDSM. D'ailleurs, ouais. L'émission sera en replay ces prochains jours. Et tu avais un collier. Et je te disais juste avant de commencer cette émission que j'ai récupéré ce collier. Et je sais pas. Peut-être fétichisme, on en parlera peut-être ensemble. Je l'ai senti et il y avait ton parfum dessus, j'ai trouvé ça incroyable. Je te le dis, je veux pas qu'il y ait aucune gêne entre nous, tu vois. Je me suis caressé. Non, mais c'était vraiment bien. Vraiment,
c'est pas gênant, tout va bien.
Donc, du coup, tu as remis un collier ce soir.
Mais voilà, et donc c'est le collier de Paolo de Cuir SM qu'il a confectionné lui-même.
Oui, c'est avec ça. Petite main, parle avec bien devant le micro. Main,
parce que Paolo, il n'est pas juste vendeur-distributeur, il est surtout artisan avant tout.
Avant tout, oui. Et que artisan.
Oui. Donc, attends, on ne peut pas acheter tes produits.
Si,
mais où? Alors, où?
Ah, bah sur mon site QRSM ou Caresse de cuir. Maintenant, c'est Caresse de cuir.
Caresse de cuir.
Oui, oui. Mais en fait, je ne revends aucun produit.
Bien
donc,
sûr.
Tout ce que je vends, c'est des produits que je fabrique.
C'est du fait main.
C'est uniquement du fait main avec amour. Voilà, tout à fait. Et avec l'intention. Parce que c'est l'intention qui fait le job.
Et t'étais venu l'année dernière déjà dans l'émission.
Oui, avec plaisir.
Voilà, on a eu plein de choses incroyables. Tu vois,
oui, on a fait
colliers,
un peu de cordes aussi. Ouais.
On a fait des cordes aussi, on avait attaché
oui,
des gens.
Tout à fait.
Tu vois, Flore, tu as un très joli collier. On peut attraper la personne comme ça, ce que je te disais aussi tout à l'heure.
Oui,
on peut attraper
la
personne.
Avec les anneaux larges.
Je peux
voilà.
M'accrocher comme ça.
Je peux
si
je
tu
t'accrocher.
Envie, tu me laisses comme ça toute l'émission.
Voilà, et je te récupère la semaine d'après.
C'est ça.
C'est hyper cool. Il y a plein. On va en parler. Il y a des fouets. Il y a plein de choses comme ça. Vous allez voir.
Ça, c'est cadeau.
Ouais. Tu l'as fait ce matin.
Oui, j'en ai fait une paire ce matin, c'est pour vos auditeurs.
Ça sent hyper bon.
Voilà.
Ça sent hyper bon. Voilà. En tout cas, merci encore une fois Paolo d'être avec nous ce soir. Il y a plein de gens là.
Merci à toi de me recevoir.
Ben, je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Bonsoir à tous. Il y a plein de gens dans la room de plus en plus. Franchement, merci. Des gros bisous. On continue le tour de table.
On continue avec Axel de Sade. Axel de Sade qui a compris que c'était l'été. Hein, parce qu'il y a un
oui,
petit côté summer.
Grave, tellement.
Donc on est sur du latex, fourrure et cuir en bas qu'on ne voit pas. Axel, elle est domina et membre du STRAS. Le STRAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les travailleurs du sexe, le syndicat des travailleurs du sexe.
Travailleurs et travailleuses du sexe.
Qui milite activement pour se battre pour les droits et la reconnaissance des travailleurs du sexe. Donc on est ravis de t'avoir. Axel, elle travaille aussi beaucoup avec des clients fétichistes. Elle organise plein de mises en scène et plein de choses sympas et on va en parler avec toi un petit peu après. Et il y a aussi Sacha Bellamy ce soir. Sacha Bellamy qu'on avait vu dans une émission récemment. Crac-crac,
sur Canal,
qui est un adepte de la forniphilie, mais c'est toi qui vas nous raconter ce que c'est. Parce qu'on...
Eh bien, la forniphilie, c'est un jeu de domination et soumission, pas SM, ça vise pas à être douloureux, ou à jouer avec ces sensations-là, et qui constitue, c'est un jeu de rôle, en fait, où on va condamner, entre guillemets, un soumis ou une soumise à jouer le rôle d'un objet pendant un temps donné. Donc ça peut être en général un meuble, mais pas seulement.
C'est pas que transformer les gens en table basse.
Non, c'est la chosification, l'objectification, comme on dit en mauvais français. En fait, on devrait dire la réification en français.
D'accord. Tu considères que c'est une sous-catégorie des pratiques d'humiliation? Pas du tout.
Si, parce que moi, je le compare beaucoup à ce qu'on appelle le pet play, par ailleurs, dans les fétichismes. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'incarner un chien, un chat ou un cheval, on va incarner une table basse. Mais quelque part, c'est les mêmes ressorts psychiques qui sont sollicités, je pense.
Moi, j'aimerais bien que Joseph me transforme en loutre. Je sais pas, c'est un truc qui me plaît vachement.
En loutre?
Ouais, en loutre.
Il y avait eu quelques années sur le Huffington Post un buzz qui a été fait avec un vieil homme qui cherchait un valet de maison logé, nourri, payé, etc. Mais qui devait une fois par semaine se déguiser en morse. Ça
avait défrayé la chronique.
C'est génial.
Moi, c'est ça que je trouve formidable et on en parlera dans l'émission ce soir, c'est la créativité. Il n'y a aucune limite du coup aux sexualités et ça se marie vraiment bien à ce genre de délire. En tout cas, merci tous les trois d'être avec nous ce soir. Vous faites quel drapeau? C'est la Belgique, c'est l'Allemagne, c'est quoi ce soir? Parce qu'il y a du noir,
ah oui.
Du jaune et du rouge.
Oh oui, il y a de la Belgique.
C'est la Belgique.
C'est la Belgique.
Indéniablement.
Ouais. Bon, en tout cas, merci. C'est très joli. Merci beaucoup. On aura au téléphone Alex Varenne qui est un dessinateur très connu et qu'on aura par téléphone.
Ouais.
Ce sera notre coup de fil de la semaine. Il y a notamment été édité chez Casterman, chez Albin Michel. Il y a écrit de nombreuses choses, notamment dans L'écho des savanes, que vous avez bien connu. Moi, je suis un peu jeune, j'ai moins lu, peut-être mes parents en avaient.
Moi, je suis encore plus jeune. Ouais. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais oui, c'est un grand dessinateur qui est un petit peu dans la même veine que Manara à l'époque et qui a commencé un peu aux mêmes endroits et qui est un grand monsieur qui a fait plein de choses et qui a bientôt une exposition. C'est pour ça qu'on le reçoit aussi dans l'émission ce soir et qui a beaucoup travaillé sur la question du fétichisme et il a une façon de sublimer les femmes en particulier qui est assez intéressante.
Toi, Manara, ça te parle beaucoup, Joseph. C'est vraiment un auteur de BD qui...
Fan absolu. Et comme je suis un peu plus âgé que vous, ouais. Moi, L'écho des savanes, c'était vraiment, vraiment mon époque.
C'était ton Picsou Magazine, quoi.
C'était un peu mon Picsou Magazine, tout à fait, c'est vrai.
Avec les Gottlieb, etc. Quoi.
Tout à fait, mais tu parles de Gottlieb, je suis un fan absolu de Gottlieb.
Fruit Glacial. Voilà.
Bah oui, Fruit Glacial.
C'est la même veine.
C'est exactement la même veine. Je crois d'ailleurs que c'est les mêmes éditeurs, je crois, non? Faudrait vérifier.
Mais oui, c'est la même.
Je crois que c'était frères et sœurs.
C'est tout à fait possible.
Très, très bien, ces personnes. Je crois qu'ils sont jumeaux, d'ailleurs.
Oui. Ouais.
Je crois que c'est la même personne, finalement.
Oui, c'est possible.
Bon, les infos intox de Flore Chérie, oui. Chaque semaine pour gagner des magazines Union. Tu nous fais, tu nous dis des choses à nous de dire si c'est vrai ou si c'est faux ce soir, c'est sûr.
Est-ce que cette paraphilie existe-t-elle vraiment? Le DSM a recensé, évidemment, différentes paraphilies. Et est-ce qu'elle existe ou pas? Mais comme je m'adresse à chaque fois à des experts du milieu, j'essaie bien de vous piéger, évidemment.
Oui, c'est pas évident. Alors, la paraphilie, si on peut donner la définition en quelques mots.
Alors, la paraphilie.
Tout ce qui sort de la norme sexuelle.
En fait, voilà, c'est ça. Ça se définit de cette façon-là. J'ai la définition sous les yeux. C'est l'ensemble des attirances ou pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme normaux. Les pratiques elles-mêmes sont souvent classées dans des délits ou des crimes sexuels dans différents pays. Bon, ça dépend. Mais en tout cas, oui.
Ouais, si je peux rajouter, les paraphilies, ça implique aussi que on ne puisse pas avoir d'orgasme ou de jouissance sans avoir appel à cette paraphilie. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui définit la paraphilie.
Exactement.
C'est aussi le fait que c'est un comportement gênant pour l'auteur de cette paraphilie.
D'accord.
Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est. C'est-à-dire que c'est pas dans la définition le fait que ce soit gênant. Ça serait plus quand on parle de comportement addictif ou de choses comme ça. C'est-à-dire quand ça devient une gêne. Maintenant, je pense qu'on peut avoir une paraphilie ou avoir un fétiche, ne pas en être plus gêné que ça parce qu'on peut très bien le vivre de façon épanouie. Mais ça peut quand même être rentré dans la paraphilie. Je pense pas que ce soit la gêne qui le définisse. Mais en effet, ça peut être gênant. C'est-à-dire que quand on ne peut pas avoir une sexualité autre que avec des talons hauts, que la femme porte des talons hauts, c'est vrai que souvent c'est gênant.
C'est l'obsession qui fait cette distance.
C'est le fait de ne pas pouvoir avoir une jouissance.
C'est l'obsession qui caractérise la maladie mentale.
D'accord, ok.
Voilà.
Très bien.
Et en fait, la paraphilie, c'est plutôt appliqué pour qualifier une maladie mentale.
Et les gens qui collectionnent des timbres.
Évidemment.
Évidemment.
C'est hyper important.
Mais ça, c'est une bonne question, justement.
C'est une maladie mentale comme les autres.
Le timbre est sexuel?
Bah, tu lèches le timbre, le cul de timbre.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a
Et en plus, tu l'envoies à quelqu'un.
Marianne, enfin,
tu lèches le cul de Marianne, effectivement.
Donc, je prends l'info.
Merci beaucoup, Sacha. Là, c'est très bien.
C'est un peu timbré, quoi.
On te met une petite batterie parce qu'à chaque bonne vanne, on met une batterie.
Okay. Vous pouvez vous habituer, je suis spécialiste.
Et bah, c'est parti.
Très bien.
Il y aura la news de la semaine, ce sera les 10 positions sexuelles pour perdre du poids.
Ah, bah, très bien, comme c'est bientôt le printemps.
D'après Marie-Claire. Alors, pour ceux qui nous écoutent uniquement en son, ils ont l'impression que quelqu'un se branle. En fait, non, c'est toi qui secoues une canette d'Orangina. Parce que j'en profite.
Ah, je savais pas que ça.
C'est on dirait que quelqu'un se masturbe.
Avec des couilles bien remplies quand même, parce que c'est bizarre.
Tu n'as pas sans doute entendu beaucoup d'hommes se masturber, j'ai l'impression.
Si, très bien, c'est ma grande passion dans la vie.
Ah ouais, ouais. Et s'ils font un bruit d'Orangina, c'est quand même inquiétant.
Non, mais c'est la pulpe moi qui m'intéresse.
C'est les penchements.
Non, c'est la pulpe.
Il faut secouer.
En tout cas, l'émission est accessible en audio uniquement, donc c'était vraiment une canette de soft drink qui était ouverte. Voilà, on est en dispo en podcast sur iTunes et sur Deezer. Ben, parce que c'est vachement bien. Et puis j'en profite pour dire également qu'il y aura des cadeaux, des sextoys Lelo à gagner avec le jeu de la capote qui a un concept assez fou. Qui est de deviner le nombre de préservatifs à l'intérieur d'un bocal que je vais montrer tout à l'heure. Ouais, on a des techniques de jeu quand même assez élaborées. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. On est ensemble pendant quelques heures. Ben non, parce qu'après, on va rentrer chez nous. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va développer ce sujet hyper passionnant qui est.
Le fétichisme.
J'ai envie de dire, moi, les fétichismes.
Mm-hmm. Bien sûr.
On peut, ouais.
Ouais, on peut. Comme j'aime me rappeler, les sexualités, parce qu'elles sont diverses et variées. Joseph, qu'est-ce que tu as comme image mentale quand on te parle de fétichisme?
Quand on parle de fétichisme comme image mentale, oh là là, quelqu'un qui lèche une botte.
Bon, oui. Voilà. Ça marche.
C'est première image qui m'arrive.
Je pense que la première image qui arrive aux gens, c'est le rapport au pied dans le fétichisme. Pourquoi c'est le plus répandu, c'est le plus connu, Sacha ?
Alors, moi, je veux dire, par rapport à toutes les personnes que je vois, c'est effectivement le fétichisme le plus répandu, c'est vraiment le fétichisme du pied, d'avoir le pied sur son corps, de sentir le pied, de lécher le pied, d'être branlé avec le pied, d'avoir les parties génitales écrasées avec le pied.
Moi, j'ai une question sur le pied. Est-ce que le pied est toujours ce symbole de puissance ou d'autorité ? Ou est-ce que c'est autre chose parfois ?
Non, il y a un symbole d'autorité clair, puisque tu vois, quand t'embrasses les pieds, c'est que tu te mets dans une position de soumission.
Ouais.
De soumission.
Ton rapport au fétiche, c'est le pied également, toi, Paolo, ou pas du tout ?
C'est la première image qui me vient, parce que j'en croise régulièrement.
Ouais.
Mais moi, mon rapport personnel au fétiche, j'en ai pas en particulier.
Je crois qu'on est tous fétichistes de quelque chose. En
particulier, quoi.
Moi, je pense qu'on est tous fétichistes.
Voilà. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment les bas, les collants, les.
Mais tu serais pas un peu fétichiste du cuir ? Puisque c'est ce que tu travailles.
C'est juste ma vie, quoi.
Alors, on n'a rien à dire là, Paolo.
Est-ce que j'ai transformé ?
On en ramène moins.
Bon, mets-moi un jingle. Voilà, non, il est probable que j'ai transformé ma passion première. En mon métier, oui, c'est. Mais le cuir, pour moi, c'est un rapport de peau à peau. Je considère toujours que ce qu'il y a au bout d'un martinet, c'est les doigts d'une main. Au bout d'un fouet, c'est pareil, c'est la continuité d'une main. Donc, est-ce que c'est du fétichisme ? Je ne sais pas, mais.
Le fétichisme du travail de la matière.
Ah ouais, ça, c'est primordial. L'intention qu'on met dedans, ouais.
Le travail bien fait, j'ai envie de dire, Paolo.
Oui, le travail, quoi.
Le travail.
Il ne peut pas être autrement.
On nous dit dans la room, hein, le pied ou la petite culotte aussi. C'est un des fétiches aussi qui revient souvent.
Ouais, il y a un site, hein, Ventaculotte.
Bien sûr.
Ouais. Ouais. Maintenant, il y a Venton Slip aussi, j'ai vu.
Je sais, j'y suis. Je vends mes slips.
Ah, je vais aller chercher.
Je te le filerai gratos.
Tu ne portes toujours pas de boxeur. Tu n'es pas si jeune que tu le disais.
C'est slip et boxeur. On fait les deux maintenant. Je mets des strings aussi les dimanches. À l'abri des regards indiscrets. Sacha, toi.
Ça tombe bien, on est lundi.
Justement, c'est pour ça que j'ai un boxeur. Sacha,
oui.
Ton fétichisme, toi, la première image qui te vient. Alors,
moi, j'arrive pas déjà à me définir. Quand on me demande comment me présenter à l'antenne, je réponds sexonaute, parce que si je réponds dominant, c'est obtus, enfin c'est plus étroit que ce que j'ai envie de vivre. Soumis, c'est également pareil, c'est trop étroit. J'ai pas la prétention d'être génial des deux côtés, mais en revanche, d'aimer vraiment également la soumission et la domination. Sans frontières, oui.
Et donc tu t'es dit sexonaute, c'est comme ça que tu t'es présenté auprès de Flore. Je ne connaissais pas ce mot.
C'est un néologisme que je me suis permis, hein, mais simplement c'est pour dire que j'explore. Je pense que une des frayeurs des gens dans leur vie sexuelle, et je ne parle pas là de BDSM, de fétichisme ou quoi, même dans une vie normative au niveau sexuel, c'est la peur d'épuiser la libido, c'est-à-dire d'épuiser le désir. Et souvent, on entend « Ah non, un fantasme, ça ne doit pas se réaliser, parce qu'une fois qu'on l'a réalisé, on n'en a plus. »
Ah oui.
Et ça, c'est un truc qu'on entend très souvent dans la tête des gens ou dans leurs mots.
Ouais.
Moi, j'ai eu l'envie exactement inverse, c'est-à-dire dès que j'en ai un qui me vient, je n'ai de cesse de le réaliser. Donc forcément, j'en ai exaucé plein, et à chaque fois, j'en découvre trois quand j'en tue un. Quoi.
Ça alimente le truc,
pour l'instant, en tout cas, de mon expérience personnelle, je ne crois pas que ça ait de fin. Tout pendant qu'on soit créatif en même temps.
Et quand ils ont été exaucés, ils s'altèrent ou pas du tout ? Tu peux y revenir avec autant de plaisir qu'avant.
Je peux y revenir,
qu'avant.
Mais justement par leur variété. C'est-à-dire, par exemple, le jour où j'ai découvert l'entrecôte frite, j'ai été fan. C'est pas pour autant que j'en mange tous les jours de la semaine depuis 20 ans.
C'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Beau parallèle. Ouais.
Donc, je peux aimer la diversité en fait gastronomique, tout en ayant mes kiffs dans les aliments. Et c'est pareil avec les paraphilies ou les fétichistes. Moi, j'ai tendance à commencer à les rejoindre ces deux termes, mais un peu artisanalement, j'avoue.
Comment tu l'as construit, toi, ton rapport au fétichisme ? C'était venu quand ?
Déjà, je pense que c'est une question en fait, à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas un avant et un après. Il n'y a pas une révélation.
Oui, mais il y a une construction quand même.
Il y a un moment peut-être où on réalise qu'on l'était déjà, mais il n'y a pas un moment où on décide « Tiens, hier je ne l'étais pas, tiens, demain je le serai ». Ça n'existe pas, ça. Donc je pense qu'il y a un moment de notre vie. Alors,
parfois, t'as des déclics hein, quand même sur les fantasmes.
C'est pour ça que je dis des prises de conscience, voilà. Mais je pense pas qu'on décide d'être BDSM. Plutôt, on l'admet à un moment. On se regarde dans la glace et on dit Ah oui, c'est ce que je suis, il faut que j'arrête de dire le contraire, c'est ce que je suis, donc je dois le vivre et l'assumer pleinement, ou alors je le cache, mais c'est un autre choix. Mais c'est plutôt une prise de conscience qu'une décision délibérée ou une néglige de pensée du sexe, quoi.
C'est comme Jade Billion qu'on avait au téléphone, qui était avec nous la semaine dernière, on parlait de BDSM, qui un jour lit un bouquin, et elle ne se rend pas compte qu'elle est soumise, mais elle sent effectivement qu'il y a une révélation, quoi. Elle n'a pas dit...
Elle n'a pas les mots, enfin, on n'a pas forcément les mots, mais... le vocabulaire ou les idées, et c'est vrai que... On est un peu comme ça et je comprends.
C'était sa condition et les, ouais, on parle de révélation, quoi.
On peut se poser la même question au demeurant avec les homosexualités. Hein. Si vous voulez, on entend des gens dire que l'homosexualité c'est inné. Enfin, on entend ce genre de propos hallucinants qui relèvent presque de l'eugénisme social d'ailleurs. Mais pourtant, on a des questions autour de ça. Enfin, je veux dire, y compris dans le BDSM, est-ce que c'était en moi dès le début et que j'ai mis du temps à le comprendre? Ou est-ce que c'est un acquis par ma société, par mon éducation? Je n'ai pas la réponse, hein, j'en prétends.
Après, il y a des choses quand même, enfin, il y a des mécanismes quand même très simples dans le BDSM qui sont communs à tout le monde. C'est-à-dire que je pense que tout le monde à un tout petit niveau peut aimer le BDSM. Parce qu'on aime tout, on n'aime pas les responsabilités, on adore le lâcher prise. C'est hyper humain d'aimer ça. On adore l'endorphine, l'adrénaline, on est conditionné pour aimer ça. Donc forcément, à petite dose, on adore tous le BDSM. Maintenant, en effet, où est-ce que tu places le curseur? Il y a forcément une part, peut-être un peu d'inné, peut-être un peu d'acquis, peut-être un peu des deux.
Axel, tu veux dire un truc?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on pratique tous le BDSM. Je pense qu'on est aussi tous fétichistes, mais en fait, on ne le sait pas.
Et alors, je veux bien entendre ta définition du fétichisme pour dire on est tous. Qu'est-ce que tu mets dedans?
Est-ce que le collectionneur est fétichiste? Le collectionneur de timbres, puisqu'on parlait du collectionneur.
C'est quoi ta définition, alors, du coup?
Alors, de la sexualité,
si le collectionneur de timbres est fétichiste?
Alors, le fétichisme, dans le, on va dire, le contexte sexuel, c'est le report de son affection, de son affectivité sur un objet, une matière, une pratique.
Quelque chose qui n'est pas humain.
Oui, quelque chose qui n'est pas humain, d'accord, qui fait appel à la réification, à l'objectivisation. Moi, je te dis qu'il y a plusieurs fétichismes. Il y a aussi, alors, le fétichisme individuel, c'est ce que je viens de dire. Après, il y a le fétichisme social, c'est-à-dire qu'en ce moment, on va aimer, par exemple, une femme plutôt bien faite, sans poils, et ce fétichisme social devient une norme sociétale. Donc, il y a plusieurs niveaux, de fétichisme. Et moi, je pense, oui, qu'on l'est tous. Après, est-ce qu'on le transfère ou on l'applique tous dans sa sexualité? C'est une autre question. Mais je pense qu'on a tous, entre guillemets, notre petite Madeleine de Proust. Puisque, au final, le fétichisme, ça fait appel, il me semble, à un bon souvenir de l'enfance. Ouais. Je pense que c'est ça, ça fait appel à un bon souvenir de l'enfance. C'est un comportement, en fait, un petit peu irrationnel qui face à ton objet fétichiste, te fait perdre un petit peu toute rationalité et te donne une certaine excitation. Et cette irrationalité te vient, à mon sens, de ton enfance. Tu vois, un bon souvenir, tu vas être... Enfin, moi, j'ai souvenir d'un...
C'est le doudou, quoi.
C'est le doudou. C'est ça, c'est le doudou. C'est le jeune garçon qui, à un moment donné, va se retrouver subjugué par le pied d'une amie de sa mère. Tu vois. Et qui va avoir de cesse, en fait, à réinterpréter, en fait, ce souvenir d'enfance dans le cadre de sa sexualité.
Sacha ?
Oui, j'allais dire, ça peut être un doudou ou une frustration. Parce que dans les deux cas, ça peut devenir une Madeleine de Proust quand on a le mindset qui va avec. Mmh. C'est-à-dire qu'un soumis peut avoir comme Madeleine de Proust une frustration intenable, dont finalement il a appris à tirer plaisir plus tard.
D'accord. Paolo ?
Oui, un vrai voyage en son univers intérieur. Et moi, je suis plutôt du côté des dominants, mais sans aucune prétention, parce que le dominant est toujours au service du soumis ou de la soumise. Donc c'est pas le beau rôle, hein, c'est toujours un rôle où on donne toujours de soi. Et le grand plaisir, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est d'emmener l'autre là où il veut aller et là où ça lui fait plaisir d'être. Et donc c'est toujours des beaux voyages, des voyages intimes qui sont toujours très intérieurs. Et moi, j'ai un peu de mal à parler des gens, du fétichisme et tout ça, parce que je trouve que c'est très intime. Chaque histoire est très personnelle avec les gens. Et lorsque je joue au fouet, aux cordes, je ne me permets jamais d'essayer de savoir qu'est-ce qui motive l'autre et quel chemin il prend. Ma seule motivation, sans parler personnellement, parce que je pense que je peux parler au nom d'autres gens, c'est le bien-être de l'autre, et de savoir qu'on peut l'emmener là où il a envie d'aller, et on peut aussi le ramener pour qu'il retrouve ensuite son intégrité d'avant.
Mais il n'y a pas de curiosité, tu n'es pas là pour gratter
non, ouais, du tout.
Le vernis.
Du tout. Non, il faut... Voilà, je pense que le vernis, il se gratte tout seul. Et c'est pas à nous en tant que dominants d'aller le gratter.
Et t'arrives à emmener des personnes comme ça sans gratter le vernis justement ? Comment tu sais ? Ou alors tu fais quelque chose de générique qui convient à tout
le
monde ?
Non.
Comment tu adaptes en fonction de la personne sans la
connaître ? Quand j'ai dit on gratte pas le vernis, ça veut, en fait c'est très simple. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu et son envie. Lors d'une séance de fouet ou d'une séance de corde, c'est très intime. La personne, on l'encorde, on l'attache et on l'emmène dans son histoire. Mais son histoire, elle n'est pas obligée de la partager avec nous. On n'a pas besoin de la connaître.
Alors après, il y a deux choses. Tu parles beaucoup d'intimité, que c'est propre à chacun, mais j'ai l'impression, et peut-être Axel, tu pourras m'aiguiller ou Sacha dessus, qu'il y a quand même des grandes tendances dans le fétichisme où au final, on se rend compte, par exemple, la podophilie, qui est vraiment partagée par plein de monde, où on se rend compte que finalement, ton histoire personnelle, elle est quand même partagée par beaucoup de monde.
Excuse-moi, il y a une putain de bonne vanne dans la ronde. Il y a un mec qui dit il parle hyper bien Didier Roustan.
Oui, bien. Vas-y, envoie jingle.
Je suis mort. Pardon.
On peut prendre une voiture pour livrer des colis ou pour aller en vacances ou pour aller au bureau. Donc, quel que soit l'acte fétichiste, ça n'empêche pas d'y mettre sa propre histoire.
Bien sûr.
Donc, l'objet en lui-même, il n'a, pour ainsi dire, aucune importance. L'objet, il devient chargé de ce qu'on y met. On prend un fouet, ou on prend un paddle ou un n'importe quoi. Pour moi, il aura une telle représentation et pour toi, il en aura une autre. Et c'est ça, l'intimité.
Mmh, bien sûr.
Et du coup, le même objet peut avoir une charge érotique irrésistible pour un fétichiste.
Imagine,
et attirer absolument pas du tout un autre.
Imagine un collier avec un parfum.
Par exemple, c'est un goût que n'ont pas tous les fétiches, tous les soumis.
Pardon, Paolo.
Imagine un collier avec un parfum.
Attends.
Hein, t'imagines le potentiel érotique ?
T'es trop. Je le récupère pas après. Hein,
je le garde.
Après,
alors.
Je vais te.
Oui, après, tu vas pas pouvoir te concentrer sur ton travail.
Je vais te perturber. Ça te parle, toi, ce qu'on dit, Joseph, sur le fétichisme, le rapport à l'enfance aussi, la frustration ?
Moi, ça me fait penser vachement à l'Asie. Les pieds, les petites culottes, par exemple. Hein, c'est très asiatique.
Je reviens beaucoup sur les petites culottes.
Ouais, tu vois. Là, c'est la première fois que je parle des petites culottes.
Ah bon ? Non, c'est moi qui parlais tout à l'heure des.
Non, mais ça me fait penser aux petites culottes vendues au Japon,
dans
magasins.
Dans les distributeurs, parfois.
Ouais, voilà, exactement. Et les pieds, je crois que c'est chinois, non ?
Bien sûr, les tout petits pieds, non, les compressés, bandés, dans les chaussures.
Je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu.
Balzac et la petite taille chinoise.
Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait.
C'est ça.
Et donc, voilà, pour l'instant, tout ça m'évoque l'Asie. Voilà, Benjamin, pour tout te dire.
Bah oui, c'est très beau, effectivement. Je ne sais pas si le fétichisme a une culture, mais...
Voilà, un voyage... Intéressant, il part en Asie.
Ah oui, on revient sur le voyage.
Dans une heure, j'attache avec mes cordes.
Grave.
Ouh là là, il se passe des choses dans cette émission.
Il n'est pas encore bien rétabli, donc la semaine prochaine, grave. Mais là, il n'est pas encore prêt.
Oui, c'est vrai, il est encore un peu en forme de microbe.
Ouais. D'accord, putain.
On va attendre.
Axel, tu veux dire quelque chose ?
Oui, tu disais que le fétichisme peut être une question de culture. Mmh. Ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, les fétichismes japonais. Donc on parle la culotte,
les pieds.
Les cordes. C'est surtout la culotte. Hein,
la culotte.
C'est surtout la culotte.
Ouais. Pipi culotte.
Les excréments de jeunes japonaises ont eu un marché. Je ne sais pas si c'est encore le cas vraiment, mais ça a existé en tout cas. Hein.
Excuse-moi. Et puis c'est aussi le fétichisme, c'est aussi une question d'époque. Parce qu'en ce moment, on parle, d'ailleurs, dans l'émission Crac-Crac, ils en parlaient du fétichisme du sneakers, de la sneakers, qui sont un peu sales.
La basket, ouais.
Qui sont chez les gays. Et puis, par exemple, chez les Grecs, c'était le pied féminin, ça, le pied grec.
On nous dit dans la room, Joseph en Shibari, ça doit être très beau à voir.
Écoute,
je valide.
Axel, elle est.
Alors, faut me payer le billet d'avion. C'est loin, Shibari.
Non, c'est à côté.
C'est à côté, là.
Paolo, il a ramené des cordes, hein, donc.
Il a pas dit Subaru.
Non, il y a des gens formidables dans la room. Qui nous dit les pieds, les culottes. Le fétichisme est un détournement du désir détaché de l'acte sexuel. On en parlait au début de cette émission. T'es pas forcément
plus ou moins détaché.
Plus ou moins détaché, hein, parce que je vois bien, moi, quand je mets mes pieds sur le sexe sur un sexe masculin, je vois tout de suite quand même que ça procure une excitation non dissimulée.
Alors, on l'a dit en préambule de cette émission, tu es aussi Domina, Axel.
Oui.
Alors, on aurait bien aimé t'avoir la semaine dernière dans l'émission parce qu'on parlait BDSM. Comment ça se présente? Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de donner la parole. On parle souvent des maîtres, on a souvent des soumises, mais des dominas, pas souvent. Est-ce que tu sais pourquoi?
Parce que nous sommes une denrée rare.
Pourquoi vous êtes des denrées rares?
Pourquoi? Je pense que c'est dû à la société. Hein, ouais. Tu sais, la femme peut très difficilement exprimer son désir, et surtout la femme répond, et l'objet sexuel de l'homme, ce qui explique aussi peut-être qu'il y a plus de fétichisme masculin que féminin.
Oui, voilà, c'était ça aussi.
Parce qu'en fait, le féminin est un objet sexuel pour l'homme, et en fait, il transfère un certain nombre de choses sur le corps de la femme, le pied de la femme, etc. Alors, ce que je vais dire est un peu genré, mais aujourd'hui, on est dans une société quand même qui est très clivée au niveau de la question des genres. Et jusqu'à présent, on a très peu autorisé la femme à exprimer sa sexualité. Ce qui explique qu'il y a peut-être un peu moins de fétichisme sexuel lié à la femme. Et j'y ai beaucoup réfléchi, en fait, à cette question du fétichisme féminin.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit qu'il doit se retrouver sur le fétichisme de l'uniforme.
Oui, c'est les symboles d'autorité.
Voilà, hein, symbole d'autorité qui va provoquer une excitation chez la femme. Mais j'ai très peu entendu de fétichistes des pieds.
Et pourquoi, à ton avis, c'est vraiment un truc de mec, ça, les pieds?
La femme a très peu la possibilité d'exprimer ses fantasmes à la différence.
Parfois, à 5 ans, tu vois, tu as des petits garçons qui vont commencer à avoir un jeu avec les chaussures des parents. La petite fille, jamais. Et tu te dis. Et là, on n'est pas vraiment. Enfin, pas souvent.
Jamais vu une petite fille dans les talons aiguilles de sa mère?
Plus des garçons.
Plus les garçons.
Non, mais vous avez jamais vu une petite fille faire ça avec les talons aiguilles trop grands de sa maman? Bien sûr que c'est courant.
Si, mais c'est joué à maman, mais c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit sexuel.
Non,
j'ai vraiment pas mal de témoignages de fétichistes qui vraiment tout petit se branlaient dans les chaussures. Et jamais une fille va, à part avec Doudou, à la rigueur, va être dans le fétichisme très très jeune. Et j'ai beaucoup de témoignages d'hommes qui parlent de fétichisme très très jeune. Donc on n'est pas vraiment dans réprimer son désir sexuel à cet âge-là. On n'est peut-être pas encore là-dedans. Et j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose chez les mecs que n'ont pas les femmes. Est-ce que tu penses que c'est dans la construction aussi de la sexualité masculine?
Je pourrais te répondre par la théorie de Freud, hein, qui dit qu'à 45 ans, en fait, le petit garçon voit que sa maman n'a pas de pénis, donc c'est l'angoisse de la castration, nanana. Et en fait, il reporte cette angoisse sur un objet et il arrive après à transférer son angoisse et à passer au-dessus. Ça va très bien. S'il passe pas au-dessus, ça devient un fétichisme qu'il portera toute sa vie.
Mais t'en penses quoi, cette théorie? Parce qu'aujourd'hui, c'est la dominante sur l'explication du fétichisme. Enfin, j'ai pas lu d'autres théories qui expliquaient le fétichisme.
Mais c'est ce que je te dis, en fait. C'est que jusqu'à présent, la femme n'a pas eu vraiment l'occasion d'explorer sa sexualité. Les femmes connaissent, à mon avis, beaucoup mieux le fonctionnement d'un sexe masculin que d'un sexe féminin. Ouais. Et tous les supports fantasmagoriques sont plutôt adressés à des hommes. Et d'ailleurs, à mon avis, hein, le 21e siècle, ça sera l'exploration par la femme de sa fantasmagorie.
Bien sûr.
Au niveau, on a toute la fantasmagorie féminine derrière, à construire.
Bien sûr.
Sacha.
L'érotisation du corps de l'homme aussi, qu'on a que chez les gays aujourd'hui et qu'on aimerait bien avoir dans le milieu hétérosexuel.
Exactement.
Alors là, j'en suis un fervent défenseur. Je pense aussi un ressort, c'est que. Aujourd'hui, l'accès à la femme pour certains hommes, l'accès à la sexualité hétérosexuelle normale, on va dire, est pas forcément simple. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en échec, voire en misère sexuelle, et qui donc, du coup, trouvent via certains fétichismes un palliatif pour pas embêter les filles, tout en jouissant de leur existence à travers un objet qu'elles vont porter. C'est aussi une façon de pallier à sa frustration pour un certain nombre d'hommes, je pense.
Oui, et tu vois ça au Japon, évidemment.
Et on voit ça aussi au Japon. Par ailleurs, pour ce qui est des fétiches féminins, je pense qu'en fait, on parlait tout à l'heure du fait que être fétichiste, ça se, on en prend conscience, mais y a pas un déclic, un moment qui fait qu'on le devient. Je pense qu'aussi, il y a des fétiches féminins, des fétichismes féminins qui ne sont pas encore nommés comme tels. Je pense par exemple.
Dis-moi.
Je pense par exemple à. J'appellerais ça l'archétype du livreur de coca. C'est-à-dire l'homme jeune, très musclé, plutôt épilé, avec un jean, un débardeur ou torse nu, en sueur, qui livre. Eh ben, je peux vous assurer.
Ou il répare la machine à laver.
Oui. Mais c'est un fétiche.
Est-ce que tu
on ne l'a pas nommé comme ça.
Est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on appelle ça des fantasmes féminins.
C'est ça, ouais.
C'est pour ça que je dis on les a pas nommés fétichisme, oui, mais oui, sans oui.
Je pense qu'aujourd'hui, on appelle ça des fantasmes féminins et que si quelqu'un doit en parler, c'est surtout pas nous, les hommes, parce que ces fantasmes, ils ont été inventés par nous, quand même. La femme au foyer, voilà. Le ouais. Livreur qui débarque.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais. Donc je ne pense pas.
Et c'est comme
pas.
Le boss, si tu veux, c'est comme alors. Le fantasme du patron, tu vois. Mais ouais. J'ai l'impression que ça reste, oui, de l'ordre du fantasme, de l'interdit. C'est, bah, écoute, c'est la position interdite, mais on n'est pas dans le.
Et là, on est dans le fantasme, on n'est pas dans le fétiche.
On n'est pas dans le fétiche, ouais. Tu vois.
Exactement.
Excuse-moi de m'inscrire en faux, hein, mais peux, pour moi, c'est vraiment ouais. Des images masculines. Aujourd'hui, c'est l'homme masculin, pardon, est consommateur de sexe. Et à partir du moment où il est consommateur de sexe, il est donc acteur de sexe, et il impose son fétichisme, il impose ses désirs et ses fantasmes. La place de la femme, elle n'existe pas. Et je pense que nous, ni toi ni moi, on ne la verra pas.
Je ne suis absolument pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi.
Mais je t'en prie.
Moi, je suis entre...
Sociétalement parlant, en termes de fantasmes et de fétiches.
Je suis un homme qui pense que, à défaut de pouvoir libérer la femme de son rôle d'objet qui a été imposé par le patriarcat dans notre société,
je
fais plutôt partie des hommes qui décident de faire un pas d'égalité dans ce sens-là.
On est deux.
Et de devenir un objet.
Mais donc, j'accepte d'être un objet de désir et non pas un stalker, un prédateur, ce que vous voulez, uniquement. Et donc, du coup, je joue à fond sur la carte
de nous.
Bien sûr, je joue à fond sur la carte de l'érotisme masculin à l'hétéro, à la sauce hétéro. Qui ne plaît pas qu'aux femmes d'ailleurs, au final. Hein, c'est pas
évidemment.
Du tout.
Mais on
obtus.
Plaît aussi aux lesbiennes.
C'est, voilà, c'est pas du tout obtus. Et dans ce parcours-là, je me suis retrouvé, non pas forcément avec une domina, mais avec une femme à laquelle j'ai envie d'offrir la réalisation d'un de ses fantasmes.
Avec plaisir.
Et dans les rôles que j'ai adoptés, il m'a semblé qu'il y avait des récurrences. Et je commence à prétendre identifier quelques petits fétichismes féminins, ouais. Même s'ils ne s'appellent pas comme ça.
Ceux que je me suis permis de nommer fantasmes.
Je pense à, vous savez, je vous disais tout à l'heure, celui que j'appelle le livreur de coca, réfléchissez, oui. Juste un truc, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que Wolverine est une icône sexy comme personnage virtuel ?
Ça
pas
dépend.
Pas du tout. Donc ce n'est pas ton fétiche. Eh bien moi, je peux vous dire que je l'ai croisé à plusieurs reprises, ce ouais. Désir féminin d'avoir l'homme. Vous savez que d'ailleurs, le débardeur, qu'on dit en français le débardeur, en anglais est appelé le woman beater.
D'accord.
Wife beater.
Enfin, il y a quand même un truc qui m'épate, ouais, et là, c'est rien à voir avec toi. Hein. C'est comment ça se fait qu'on est deux hommes à table, là, autour de cette table, en train de parler du fétiche des femmes.
Mais on demandait à Axel son avis sur le sujet.
Non, mais on vous écoute avec attention.
Moi, je coupe le micro, quoi. je suis désolé.
Non, mais je pense que les hommes ont aussi le droit à la parole. Moi, je prends la parole sur la sexualité des hommes. J'aime bien que les hommes prennent aussi la parole sur la sexualité des femmes. Je pense vous avez tout à fait le droit d'avoir une opinion là-dessus.
Alors, nous, on a le droit parce qu'on les aime. On aime les femmes pour tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles nous apportent.
Il faut que les hommes prennent la parole aussi sur ces sujets.
C'est bien de ne pas segmenter la parole.
Mais en tout cas, dans la chatroom, ils ont l'air assez d'accord sur le fait qu'il y a un clivage entre les fantasmes et le fétiche.
Oui,
ça, c'est sûr. Et je pense que moi aussi, je me range un peu du côté de Paolo, même si ton avis est quand même assez intéressant. Mais en tout cas, l'exploration, oui, de désir féminin et de retrouver une forme d'érotisme chez le mec, ça devient vital et nécessaire. Et c'est un super truc que tu fais, quoi.
Et on me dit, c'est peut-être parce que les hommes peuvent s'exprimer depuis longtemps, alors que les femmes commencent à peine à s'exprimer et à être vraiment libres sur ces questions, ce sujet.
Oui, il doit y avoir de ça aussi, évidemment.
On nous dit dans la room. Et si nous faisions les infos intox de Flore Thierry ce soir, il y a des magazines Union à gagner. Attendez, c'est un moment vraiment hyper important.
C'est là que tu voulais
important.
Couper le micro, Pablo.
Excuse-moi.
C'est là que tu voulais couper le micro. Ça.
Non. Là, je te le laisse avec jingle.
c'est impressionnant ce jeu. Tout le monde est comme des fous. Il faut le savoir. Tu vas nous donner.
Benjamin est comme un fou. Hein.
Tu vas donner.
On va vous laisser gagner. Vous inquiétez.
Il est où le buzzer?
Tu vas nous donner des paraphilies. À toi, à nous de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Ouais, c'est hyper important. Joseph aussi, toi tu joues.
Qui c'est qui répond?
Benjamin répond en premier parce que c'est à mon avis celui qui se trompe à chaque fois, donc j'aime bien. Et
c'est
après
vrai,
vous répondez.
Elle a raison, c'est vrai.
L'hyménophilie, l'attirance pour les personnes mariées.
Faux.
Vrai.
Mais après, j'en parlais au début de l'émission, c'est la créativité, donc tout est possible en soi, donc j'ai envie de dire vrai aussi.
Non, mais c'est des vraies paraphilies recensées par le DSM, qui est un truc très particulier qui recense les paraphilies. C'est faux ! C'est un fantasme !
Merci,
c'est un fantasme, d'accord.
Non, c'est faux, ça n'existe pas. Pas les personnes mariées, tu peux... Il y a le candolisme, par exemple, qui est dedans, c'est de voir, évidemment, ton partenaire habituel, mais il n'y a pas le côté mariage, quoi. Il n'y a rien sur le mariage. Évidemment dans les paraphilies.
Mais il y a un blog qui... Je ne sais plus comment ça s'appelle.
En fait, je crois qu'avec Axel, on ne va pas jouer parce qu'on va vous dire qu'elles existent toutes.
Ouais.
On
est non, mais en fait, qu'il y ait ces choses... Enfin, évidemment que tu fantasmes sur l'interdit, donc la personne mariée et ton patron, machin, sont de l'ordre peut-être du fantasme, mais pas forcément de la paraphilie. Ce n'est pas recensé comme
tel. Enfin, si vous vous tripotez sur votre oreiller en pensant à ce fantasme, excusez-moi, mais la frontière du vin est plus ténue qu'une feuille de papier à cigarette.
Bah oui, et puis Flore, elle te dira que si dans Paraphilie Magazine...
Si tu veux, ça devient une situation, c'est-à-dire que ce même objet, cette même personne, si elle n'est pas mariée, est inintéressante. Donc quand c'est dans la situation, le scénario, et non plus l'objet, peut-être que tu es plus dans l'ordre du fantasme et moins dans l'ordre du fétichisme.
C'est pour ça que les dominants-dominantes sont metteurs en scène.
Paraphilie numéro 2, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse?
Mais ça devient des réalisateurs de fantasmes.
Bon, tu joues à ton jeu.
Macrophilie, l'attirance pour être dominée par un ou plusieurs géants. Macrophilie.
C'est faux.
Faux.
C'est vrai.
Faux.
C'est vrai.
Là, tu vois. Ouais, bien joué. Franchement, bien joué. Bien joué.
Il les connaît toutes.
Un petit clin d'œil à Stanton dans sa troupe.
Franchement, bien joué. Troisième paraphilie. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse?
L'exobiophilie, le fantasme de coucher avec un extraterrestre ou l'attirance de coucher avec. Enfin, l'envie de coucher avec.
Ne se prononce pas.
non, mais ça se fait jouer.
Ça existe, mais alors de là, elle considérait comme une paraphilie.
Bah oui, parce que dans la notion de paraphilie, il y a la possibilité de le réaliser, c'est ça?
Non. Bah dans la notion de paraphilie, c'est que tu ne peux pas avoir de la jouissance tant que tu n'as pas reproduit ton schéma fétichiste. Mmh. Bon, bah alors là, ça me semble quand même compliqué.
Compliqué.
Il y en a qu'un, peut-être, c'est Raël.
Quand la paraphilie rejoint le paranormal.
Exactement.
Oh bien, bravo. C'est bon. Et donc oui, c'est une vraie paraphilie qui existe.
Oui, notre ami Senzo d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé dessus.
On l'embrasse.
Et on parlait tout à l'heure du Japon. Vous savez qu'il y a dans le hentai, il y a aussi les tentacules.
Bien sûr. Ouais.
Énormément
de tentacules. Souvent en référence à l'extraterrestre et non pas forcément aux poules.
Mais moi, je me demande qui elles servent réellement, ces tentacules.
Probablement pas ma tante.
On va pas mettre tout le temps les
non
tambours.
Mais écoute, non. Il l'a bien placé. Hein.
Il faut mettre le tambour là.
Là, normalement, il a le droit au tambour.
T'as le droit au tambour.
Vous avez prévenu.
Ouais. Et Joseph, t'as un truc à dire sur les tentacules. T'as pris le micro, t'as eu envie de dire quelque chose.
Écoute, non.
D'accord, non, si t'as pas envie d'aller.
Écoute, on a assez entendu cette batterie.
D'accord, ok, voilà. Très bien.
Je peux expliquer d'où vient le...
On va passer un petit quart d'heure sans batterie.
Vas-y Axel.
Je peux expliquer d'où vient en fait le fantasme de la tentacule.
Oui.
C'est que le Japon, c'est une île qui est soumise au tsunami. Et donc il y a cette peur d'être envahi par la mer. Et donc dans la mer, il y a ces gros poulpes tentacules. Et en fait, ils ont transféré en fait cette peur et l'ont exorcisée en l'érotisant et donc en créant ce fantasme en fait de la tentacule.
Ouais, mais cette mer qui les a sauvés. Aussi, parce que figurez-vous, quand ils allaient se faire envahir par les Mongols, le Japon ne s'est jamais fait envahir. Quand ils allaient se faire envahir par les Mongols, la seule fois avec une flotte absolument énorme, il y a eu un typhon qui a détruit la flotte mongole à son arrivée sur les rivages japonais. Ce typhon était appelé vent divin, qui en japonais se dit kamikaze.
Bah, voilà.
C'est ça
que je trouve formidable dans cette émission.
Quelle culture.
Et ceci dit, pour eux, la mer a effectivement le rôle d'une dominatrice, puisqu'elle incarne le fétiche, mais aussi la bienveillance, du coup.
Voilà. Quel niveau.
Bon, je vais revenir à mes infos intox.
Oui.
Voilà.
Je fais de la concurrence à France Culture.
C'est ça.
Il y a un mec qui nous a dit on va partir sur France Info, là, ils nous ont dit.
Mais d'ailleurs, avec un tiré, ça le ferait.
Oui, c'est vrai, culture.
Effectivement. Ah oui, effectivement. Okay. Ménophilie, l'amour des femmes ménopausées.
Elle est en train de boire, Axel. Elle est en train de boire.
Je dirais non.
Moi, je dirais non.
Moi aussi.
Paolo,
il ose plus.
Ah mais moi, ça va bien, mais ça m'inspire pas.
Ça vous inspire pas? Non, ça m'inspire c'est pas. Faux, voilà, tout simplement.
C'est faux.
La narratophilie, la recherche d'un vocabulaire obscène lors de l'acte sexuel, narratophilie.
Oh bah oui, alors là,
je sais pas si c'est le bon nom pour le coup, mais le fait que ça existe, oui, c'est incontestable.
Donc voilà, le dirty talk, c'est la narratophilie, c'est dans le domaine des paraphilies. La voisinophilie, c'est le fantasme de coucher avec son voisin de palier. Alors ça n'existe pas, c'est une paraphilie qui existe en fait juste pour moi. Et comme mon voisin actuel est un extraterrestre géant qui adore m'insulter quand je sors les poubelles, je combine à la fois la macrophilie, l'exobiophilie et la naturatophilie. Et heureusement, même si on les mélange toutes ensemble, on peut quand même bien vivre.
Et bah, tu peux y rajouter la bestialité parce que des proches disaient le voisin, cette créature étrange qui tend à se rapprocher de l'homme.
Oui, c'est très beau. Et puis t'oublies que ton voisin a la ménopause aussi en plus.
Bah oui.
C'est donc une voisine.
Non, il y a plein de gens qui disent de la pépétophilie. Maître Capello revient, s'il te plaît. Voilà, c'est France Culture. Bah ouais, c'est France Culture. C'est un petit peu France Culture ce soir, mais c'est.
Mais c'est intéressant.
Mais ouais, continuer grave. L'amour des petites culottes, c'est le burusara.
Le burusara.
Burusara.
Ouais. Ah, ouais, en japonais.
D'accord. Bah je trouve ça très intéressant. Voilà. Joseph aussi, parce que je sais
ça
pas pourquoi.
Vous avez perdu quelques auditeurs.
Non. Mais les gens aiment bien. Les gens aiment bien.
Sinon, on peut faire aussi d'où vient le mot fétichisme, qui vient du portugais féticio, et en fait qui caractérisait l'importation de fétiches africains lorsqu'ils colonisaient l'Afrique.
Dans le marché triangulaire.
Et en fait, il ramenait ces objets qui ont été appelés féticiaux. Et donc après, on a transformé le mot pour arriver au mot fétiche.
Tout à fait.
Voilà, c'était.
Non mais vraiment, n'hésite pas. Hein. Franchement, nous on adore. Hein. N'hésite pas à enrichir cette émission de propos totalement pertinents parce qu'on n'a pas fini.
Mais j'ai demandé à mon soumis, Monsieur Maintenon, que je salue, de me préparer un dossier sur le fétichisme. Ouais. Et regarde, il m'a fait un dossier de 12 pages.
C'est vachement bien, c'est
mais
trop
oui,
bien.
J'espère
avec
qu'il
la
a bien fait son travail.
Oui, bah oui. Non, s'il fait bien son travail, il est puni, il le sait.
D'accord. C'est la dossiétophilie, non, c'est pas...
La dossiétophilie, grave.
Non, il a fait ça très bien.
Moi, ça m'intéresse si on peut faire une parenthèse dans cette émission consacrée au fétichisme sur ton rôle de domina et sur ce qu'aiment tes soumis. Qu'est-ce qu'ils aiment en général? Je sais qu'on n'aime pas faire mettre des gens dans des cases et tout. C'est quoi le délire numéro un qui ressort des hommes ou des femmes que tu peux dominer, toi?
Hors fétiche?
En tout.
En tout, ouais. Je dirais que 80-90% viennent pour l'anal. Pour la sodomie, la femme phallique, ouais.
Ah d'accord, ok.
Ouais. Oui, parce que en fait, c'est une pratique sexuelle qu'ils n'osent pas forcément partager avec leur partenaire. Parce que, évidemment, se faire pénétrer, se faire prendre son orifice, c'est un signe de soumission dans leurs yeux. Et ils ne souhaitent pas, en fait, perdre cette virilité ou la position de chef de famille qu'ils peuvent occuper dans leur couple. Et donc, ils vont réaliser ce fantasme avec quelqu'un qu'ils vont payer. Ouais.
Et qui est vraiment extérieur à leur vie, etc.
Voilà,
c'est
exactement.
Vraiment, on coupe tout et c'est une parenthèse dans ma vie.
Est-ce que tu penses que du coup, c'est pas un problème aussi qui vient des femmes de faire perdre la virilité à l'homme si elle le pénètre? Il y a plein de femmes aussi qui disent « Ah non, mais jamais je t'enfonce quelque chose
». Des femmes et des hommes. Hein. Est-ce que c'est un problème typiquement est-ce que c'est dû au regard que portent les femmes sur cette pratique? Je crois pas. Je pense que aussi les hommes ont du mal à accepter. Parce que, tu vois, quand j'entends qu'on me dit « j'adore me faire enculer, mais je suis pas homo », tu vois bien tout de suite qu'il y a un mélange entre l'identité et la pratique.
Bien sûr.
L'identité de l'homme.
Donc l'anal, clairement,
c'est... Ouais, l'anal, c'est vraiment le numéro un.
Jeu de rôle aussi, après?
Le jeu de rôle, mais surtout l'humiliation, en fait.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui cherchent l'humiliation. Et le fait de se décharger de la relation aussi, comme tu disais en préambule, Flore, c'est-à-dire que dans une relation classique, l'homme va avoir une nécessité d'être en érection et de pénétrer la femme. Hein. Et il se sent responsable en fait de la relation sexuelle, de la jouissance de sa partenaire. Quand il rentre dans une relation BDSM avec une dominatrice, il se sent en fait complètement détaché de cette responsabilité de l'acte sexuel et de performance. Et donc, il peut aller vraiment dans son lâcher-prise. En fait, moi, j'ai identifié dans ma clientèle plusieurs types. Il y a ceux qui sont en couple et donc qui n'osent pas avouer leur fantasme ou ne souhaitent pas avouer leur fantasme à leur partenaire et viennent les réaliser avec quelqu'un. Donc là,
ça représente quel pourcentage, ça ?
Oh, je dirais 30.
D'accord.
Ensuite, il y a les personnes qui sont seules et qui donc ça peut être les veufs par exemple, les personnes assez âgées, ou aussi des personnes qui, alors misère sexuelle j'aime pas, mais qui ne savent pas en fait comment avoir une interaction sexuelle, et le fait de payer pour eux c'est quand même beaucoup plus simple avec un résultat garanti.
C'est l'accès sûr, ouais, d'accord.
Voilà, je dirais que c'est les principaux. Moi, ouais, le
profil que tu as, toi, dans ta clientèle.
Réalisateur de fantasmes et accompagnateur aussi. On peut accompagner, alors c'est assez étrange, mais accompagner des jeunes et des moins jeunes, en fait, à la découverte en fait, de leur sexualité, à l'exploration de leur sexualité, les former aussi à ce que peut être la domination.
Le jeu de rôle du bébé, ça revient souvent ou pas du tout ? Ou c'est un cliché ?
Non, c'est pas un cliché.
Sacha, tu dodelinais ?
Non, je disais ça existe, c'est pas un cliché. Oui, ça existe. Après, c'est pas une proportion énorme, mais ça existe.
D'accord, ça existe.
C'est peut-être ça existe.
C'est l'un des plus folkloriques, donc j'imagine.
Je crois que le côté régressif, c'est quand même agréable. Alors, toutes les doses. Après, il y a.
Pour en avoir discuté avec une très bonne amie qui le pratique, qui s'est spécialisée là-dessus, en fait, souvent, les personnes qui réalisent ce fantasme du bébé, etc., c'est des personnes qui ont été victimes d'inceste.
D'accord.
D'abus sexuels. Et qui, en fait, en gardent peut-être un souvenir plus ou moins ému et viennent revivre ça.
D'accord.
Parce que c'est pour eux, c'est confortable. Tu es dans le rôle du bébé, donc pas d'initiative, etc. Et ta maman,
tout, etc.
Voilà,
ouais.
Ta maman qui va prendre en charge.
Tu t'en remets dans les mains de quelqu'un, quoi.
Ouais.
D'accord, ok, merci beaucoup. Paolo, ça te parle ?
Bonjour.
T'as eu un demi-coma, là.
Non, non, même pas.
C'est hyper intéressant. Hein.
Non, c'est intéressant, j'imagine juste que si tous ces gens-là ne vivaient pas notre époque, ils seraient encore plus malheureux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des fantasmes, des envies, des besoins, et on peut trouver, grâce à des gens comme toi, de quoi exaucer ses fantasmes, de quoi les vivre, les
réaliser. Ça évolue ou pas ?
Et je trouve que c'est bien. Mais aujourd'hui, vous avez
pignon
sur rue. Enfin, tu vois, c'est.
Oh là ! Alors, si tu veux, on fera un débat sur le travail du sexe aujourd'hui et son exercice
en France,
qui est quand même extrêmement compliqué.
Mais je pense que Paolo, il parlait plutôt de l'accès, notamment grâce à Internet, qui facilite la rencontre.
Et je me dis, c'est bien pour eux, quoi.
Oui. Voilà. Oui. Oui. Moi, je trouve que le travail du sexe est une nécessité. S'il n'y avait pas de travailleurs du sexe, il y aurait beaucoup plus d'agressions et de viols. C'est évident, c'est une évidence.
Mais je pense que, enfin, même, on peut soutenir le travail du sexe sans passer par
tout à fait.
Par ce discours-là, juste en disant que c'est chouette en tant que tel et que c'est comme un travail comme un autre et qu'on ne devrait pas.
Pas tout à fait.
Bon, on pourra faire une émission là-dessus,
voilà.
Pourquoi pas ? Non, mais vraiment, c'est hyper
intéressant.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Trop bien. Quand il fera encore plus chaud. Parce que je rappelle que c'est le printemps et c'est hyper agréable quand même.
Je
m'en remets pas. Ouais. Joseph, on va appeler Alex Varenne, le dessinateur, tout de suite au téléphone. Et puis en parallèle, on va jouer au jeu de la capote. Je vous en parlais, pour gagner des sextoys Lelo, il faut deviner le nombre de préservatifs exacts qu'il y a à l'intérieur de ce bocal.
On joue tous les trois et il y en a un de nous trois qui repart avec le sextoy, c'est
non,
ça ?
Non, c'est dans la room que ça joue, c'est nos abonnés et sur Facebook qui jouent. On vous le montre, voilà, à vous de deviner. Et moi je dis, à vous de jouer. Et Joseph est encore malade à 500 ans, on l'entend avec sa petite voix. Est-ce que Joseph, tu as le chiffre ? Est-ce que je te l'ai noté ?
Oui, je l'ai, oui.
D'accord, mais je ne m'en souviens pas, parce que je ne l'ai pas noté, moi. Voilà.
D'accord, je te l'apporte.
Ah, tu peux me l'apporter, voilà, super, c'est trop agréable. J'en profite pour dire que Flore, on sera ensemble mardi prochain
Oui, pour ta mercredi prochain.
Sexualité. Non, c'est mardi, mercredi.
Non, c'est mercredi.
Ah, c'est mercredi
14 mars.
Bah, j'ai failli me pointer mardi, tu vois.
Tu vois. Oui, mercredi 14 mars, j'anime une Sexo Academy. C'est une 2 heures. Et Axel, t'es déjà venu, je crois.
Oui.
C'est une petite conférence ludique où chacun peut jouer en équipe. Je vous fais un petit cours, vous avez des interros. Il y a 3 intervenants qui seront là pour aussi relancer les débats, qui sont Benjamin à côté de moi, Zed qui organise des soirées, Ressan qui est photographe du Monde Libertin. Donc on va parler des soirées libertines, comment bien les choisir, quels sont les codes ou pas à respecter en fonction des soirées, comment les soirées libertines ont évolué aussi à travers le temps, à travers les âges. Voilà, on va répondre à tout ça. C'est ludique, c'est bienveillant, c'est rigolo, on peut débattre. Ça dure 2 heures et c'est sympa. Et c'est au bar le 153.
Et c'est à Paris et c'est mercredi prochain, le 14.
Voilà, donc pas prochain, mais oui, en...
Oui, de d'après-prochain.
En 8.
Joseph, tu dis, hein, quand on a Alex au téléphone, hein, tu me le dis. Et arrêtez de jouer, c'est bon, c'est mort. On a trouvé hyper vite, c'est Nankra ou Nankra. Qui a trouvé, qui joue sur Wild parce que je le vois. Tu peux envoyer un message à Sabrina Wild et tout attaché. Et tu regardes dans le catalogue Lelo pour savoir quel jouet tu veux avoir parce que nous on est hyper cool. Ils choisissent n'importe quoi dans le catalogue. Alors il y a des malins parce que Lelo ils font des sextoys à 10 000 euros.
Tu réalises un peu que tu viens de lui demander d'envoyer un mail tout attaché.
C'est vrai ? Un mail tout attaché ? C'est ce que j'ai dit ?
Oui.
C'est mon côté fétiche.
Sabrina Wild tout attaché.
C'est bon, tout attaché.
Si au mot de la lettre, il va peut-être pas l'envoyer tout de suite. Hein.
Mais il pourrait. En tout cas, ça marchera. Sabrina Wild, tout attaché. Et ben, bah, bam.
Ça y est, nous avons notre correspondant au téléphone.
Et ben, je vais te laisser lui parler, Flore.
Bonsoir, Alex.
Oui, bonsoir.
Comment vas-tu ?
Bah, très bien.
Alors,
et toi ?
Oui, très bien. Merci beaucoup. On était en train de parler de fétichisme et pour te présenter. Alors, on t'a déjà présenté au début de l'émission. On va te représenter. Tu es dessinateur de bandes dessinées érotiques depuis un bon petit moment. Tu as été notamment dans la mouvance de l'écho des savanes. Tu as publié un nombre de bandes dessinées. Une petite vingtaine, je crois, 15 peut-être, quelque chose comme ça, avec notamment.
Elle va me demander oh, une trentaine.
Une trentaine, bon alors, oui. J'étais bien en dessous, dont notamment Dolly Doll, La Molécule du Désir. Il y a une exposition qui va bientôt être mise en place sur tes œuvres, c'est bien ça, à partir du 15 mars ?
Le 15 mars, le vernissage c'est le 15 mars, c'est la galerie Martel, 15 rue Martel, et c'est sur le thème de l'eau et la femme.
L'eau et la femme ?
L'eau et la femme, oui.
D'accord.
C'est mes derniers tableaux et il y a un livre qui va sortir en même temps.
D'accord, qui est le livre de l'exposition, j'imagine. Enfin, il s'amuse autour de la table à se lécher les pieds, donc voilà d'où mon rire. Et donc, à travers tes dessins, il y avait beaucoup, en tout cas de ce que j'ai pu voir, des femmes qui étaient représentées avec, j'allais dire des fétiches, mais beaucoup de cuir ou de sublimation, des corsets, des porte-jartelles, des talons aiguilles, des talons hauts. Est-ce que explorer la thématique du fétichisme, c'était important pour toi ? Et si oui, pourquoi ?
C'est-à-dire, moi, j'ai un peu touché le monde, disons, SM. C'était vraiment dans les années 90, la grande époque du SM. Mais enfin, le SM, c'est pas tout à fait le fétichisme. Hein. Le fétichisme et SM, c'est quand même deux choses différentes. Fétichisme, bon, c'est peut-être plus répandu que le SM. Hein. Bon, tout le monde est un peu fétichiste. Hein. Momentanément, il peut garder des vêtements de la femme qu'il aime ou qu'il a perdu et reprojeter sur un objet la présence de cette femme. Mais c'est du fétichisme occasionnel, disons. Mais le vrai fétichisme, c'est celui qui est porté sur des objets précis. Par exemple, le fétichisme des hauts talons. Et il ne peut être excité que si la femme porte des hauts talons. Ouais. Donc il transfère sa sexualité sur un objet. Donc ça, c'est le vrai fétichisme.
D'accord.
Moi, je ne suis pas du tout fétichiste. Bon, dans des histoires, oui, j'ai des petites séquences où je présente un homme fétichiste.
Alors, est-ce que pour toi, comme tu dis, un homme fétichiste et que le fétiche est beaucoup sur la femme, est-ce que c'est plus quelque chose de masculin ou féminin, ou est-ce que tu as vraiment voulu c'est un parti pris ?
Alors là, je ne veux pas parler à la place des femmes. Hein. Je sais, je connais beaucoup d'hommes qui sont un peu fétichistes, mais les femmes, peut-être moins, je ne sais pas. Hein. Bon, raconte peut-être moins leur fétichisme intime. Hein. Bon, je ne sais pas.
D'accord. Et est-ce que pour toi, justement, se servir de ce milieu un peu fétiche, c'était un moyen facile de rendre tes personnages sexuels ?
Pour rendre les personnages...
Sexuels, pour pas juste... Pour, je sais pas, quand tu dessines de la bande dessinée érotique, il faut créer une tension érotique très rapidement dans le scénario. Et est-ce que passer par cet univers ou t'inspirer de l'univers fétiche, c'est un bon moyen pour toi pour sexualiser tout de suite d'emblée une femme ou un
oui,
corps?
Oui, parce qu'il y a certaines images, certains fétiches qui marche assez vite. Hein. Bon, c'est un peu des clichés, mais les porte-jartelles, les corsets serrés. Je pense que ça marche un peu pour tout le monde. Hein. C'est pas qu'il y ait une fixation là-dessus, mais ça met en valeur aussi les parties sexuelles de la femme. Hein. Bon, moi, je suis plus sur un... Je sais pas si on peut appeler du fétichisme. C'est un habillement de la femme qui met en valeur ses appâts, quoi. Bon, c'est sûr.
C'est sublime.
Les porte-jartelles ou le corset, bon bah ça.
C'est pas l'objet en lui-même.
Ça met en valeur les fesses. Ça fait les bas aussi. Ça fait des plus belles jambes, quoi. Les talons aiguilles, ça fait aussi. Bon, voilà.
D'accord.
Mais ça ne rend, pour moi, ça ne remplace pas l'objet du désir de la femme, quoi, du corps de la femme.
Et alors, pour sortir un petit peu de la thématique fétichiste et se concentrer un peu plus sur tes œuvres, aujourd'hui, avec le recul, quelle est l'histoire, toi, dont tu es le plus fier et que tu as su retranscrire en bande dessinée ?
Alors là,
je te demande de choisir parmi tes enfants. Je sais que c'est toujours un peu douloureux, mais...
Je peux pas dire.
Celui qui fait peut-être le plus écho, t'as peut-être
je l'assume bien. Puis ouais. Bon, je suis assez content de moi de tous mes albums. Mais bon, il y en a qui ont mieux marché que d'autres. Mais on sait jamais pourquoi vraiment. Hein, c'est pas.
Bien sûr. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui la bande dessinée érotique est encore assez bien représentée, ou est-ce que
Je m'intéresse un peu moins. J'en lis beaucoup moins maintenant.
Oui.
Je connais moins la bande dessinée, surtout érotique maintenant. Mais enfin, non, on est dans une période très puritaine où la bande dessinée érotique n'est pas du tout mise en valeur. Il y a vraiment des auto-censures de libraires où les BD érotiques sont mis au fond du magasin, dans le rayon du haut,
inaccessible,
avec un panneau BD pour adultes.
Ouais. Est-ce que
comme
toi, tu penses que
toutes les autres BD, c'est pour enfants.
Oui, je comprends.
Elle n'est pas du tout mise en valeur. Moi,
elle est mal dessinée.
J'ai commencé des BD érotiques dans les années 80, par exemple.
Ouais.
Là, moi, les libraires n'avaient pas peur de mettre mes albums en vitrine. C'était vendu en supermarché, en Fnac, dans les présentoirs en entrant. Mais maintenant, alors là, bon, c'est...
Faut que ce soit caché.
On est relégué sur le périphérique de la culture.
Il y a toujours autant de créativité ou pas ?
Pardon ?
Il y a toujours autant de créativité, Alex, ou pas ?
Oh, bah, oui. Bah, ça me tient en vie. Hein. Ah non, mais bien sûr, c'est bien sûr. Le jour où je ne déciderai plus, c'est la mort, quoi.
Alors, il y a un ouvrage qui pourra intéresser ceux qui nous écoutent, parce qu'on est sur un site libertin pour ceux qui nous écoutent sur wild.com, c'est Itinéraire d'un libertin. C'était sorti il y a un peu moins de 10 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était exactement ?
Bah, Itinéraire d'un libertin, c'est le... un rassemblement de plusieurs interviews que m'a fait un journaliste de Rouen, qui pendant un an, il venait régulièrement pour m'interviewer. bon, c'est un fan, quoi, déjà. Ouais. Et puis, voilà, il connaissait tous mes albums, tout ce que j'avais fait paraître, même des trucs les plus... que j'avais complètement oublié, en plus. voilà. C'est un rassemblement d'interviews, en fait.
Voilà, on peut le trouver un petit peu partout sur Amazon, je crois que je l'ai trouvé également, donc on pourra te lire également pour ceux qui nous suivent. Est-ce que tu as tout raconté? Tu as encore des choses à dire sur la sexualité? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore dessiné, que tu aurais voulu aborder?
Inépuisable.
Sans fin, ouais.
Tant que j'ai encore une sexualité bon, encore un peu active, après, c'est les femmes que je rencontre qui me... c'est la sexualité des femmes que je rencontre qui m'intéresse davantage, quoi. Voilà.
Ok.
Et puis, ce qu'elles me procurent comme émotion, comme sensation. Moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis pas fétichiste. Je personnalise trop et je n'ai pas de stéréotype de femme. Je peux aimer vraiment tous les types de femmes et tous les genres, quoi. Bon.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alex Varenne.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. On fait des bisous, dans le jargon des bisous. Hein, voilà. Et puis on vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci, bah vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Hyper cool. Hyper cool. Effectivement, ce rapport au fétichisme, pour lui qui n'en est pas, c'est il n'a pas le fétichisme de l'objet, mais de ce qu'il va mettre en valeur la femme. C'était ça qui...
Ouais, c'est l'amour des femmes. Hein.
C'est l'amour des femmes.
Mais par contre, il a intimement compris un certain nombre de fétichismes quand même, quand vous voyez le rapport de certains de ses personnages masculins avec bien les sûr. Bas. Bon, c'est clairement bien compris, quoi. Bien vu.
Le nylon.
Oui, le bas nylon. Le bas...
Mais c'est à qui s'adresse.
Oui, oui, il sait comment ça fonctionne. Oui.
Tu parlais tout à l'heure de Wolverine dans la pop culture, les images fétiches. Est-ce que t'en as, toi, en tête?
Écoutez, Paolo puis Alex ont dit tous les deux qu'il fallait qu'on arrête de plaquer sur les femmes nos opinions sur leur sexualité. Alors je me fais prudent maintenant, je vais finir par me faire taper sur les doigts, si c'est pas pire. Et simplement, non, je pense que ce qui se passe, c'est que on a aujourd'hui des cloisons qui sautent entre certains milieux.
Ouais.
Mais alors là, je vais être un petit peu, enfin ça n'engage que moi.
Ouais. Hein.
Mais personnellement, je pense que le milieu, par exemple, du cosplay frôle le milieu du fétichisme vestimentaire,
oui.
Qui lui frôle parfois le milieu du jeu de rôle costumé, ouais. Qui lui frôle parfois.
Vous Axel Akiès.
Donc vous avez aujourd'hui la communauté geek. Voire nerd, qui s'intéresse fortement à ça, bien qui sûr. Est parfois même plus active et plus libérée vis-à-vis de ça que vis-à-vis d'une sexualité normative. C'est assez étonnant.
Ouais. Mmh.
Et donc, on a aussi dans le milieu BDSM ce choc générationnel où on a encore le BDSM, les gens du BDSM années 90 dont parlait Alex à l'instant, qui ont un petit peu mis en place les codes du milieu, mais en même temps des jeunes qui ont complètement décloisonné les rôles top et bottom, d'ailleurs on dit plus dom et soum dans un certain nombre de milieux. Donc vous voyez, tout ça est, je pense, en train de se décloisonner.
Non, c'est hyper intéressant. Moi j'avais aussi Britney Spears dans le clip de Oops, I Did It Again avec sa combinaison rouge de cuir.
Oui, mais on peut remonter encore plus loin à ce moment-là. On a Mylène Farmer.
C'était en latex, ça?
On a Mylène Farmer il y a quelques années qui nous fait un clip à la cravache 19e siècle, qui est la maman du fétichisme télévisuel, si vous voulez.
C'est celle qui a fait les clips les plus excitants de l'histoire du clip de
on
de
a
loin.
Un fétichiste des rousses.
Oui, grave. Ah, vas-y, Joseph, vas-y, c'est pour toi, celle-là.
Il y a un moment, on voit son petit boule là dans. Oh là là.
Je suis liberté.
Non, pas c'est ça. Celle d'après.
Sans contrefaçon.
Non, ah non, oui. C'est celle où ça se passe genre sur un champ de bataille.
Sans contrefaçon.
Mais c'est un truc de malade.
Alors, on disait qu'on était sur France Culture. Pour parachever le tout ce soir, je mets sur du Beethoven. Tu peux nous raconter ton délire de Rousse et de Mylène Farmer, Joseph?
Alors non, pas du tout. Je vais revenir sur ce que nous disions avant. Ouais, les super-héros dans leurs petits costumes, quand même. Je veux dire, tu parles dans la pop culture.
Grave, moi j'avais Catwoman.
Je veux dire, non, mais c'est ça. Et puis il y a aussi le délire, là, pour revenir sur les nerds, le rapport aux jouets de certains adultes.
Marvel, ouais.
Marvel ou tout, où ils gardent les jouets dans les emballages. Ouais. Et ils n'ont plus de valeur s'ils sortent de leurs emballages.
Donc tu te dis, bon, c'est bizarre, ils ont un rapport comme ça à leurs jouets, en même temps c'est des adultes. Il y a un côté fétiche de malade là-dedans, dans toute cette culture-là.
Et on revient sur le rapport à l'enfance.
Oui, c'est ça, il y a un lien avec l'enfance et tout. Tout ça, effectivement, je suis assez d'accord avec Axel, là-dedans il y a plein de fétichisme.
On nous dit dans la room, pardon hein, Axel, on nous dit Madonna aussi, également. Période Jean-Paul Gaultier avec les seins iconiques.
On a une particularité aussi autour des super-héroïnes, c'est qu'elles ont en général des attributs pulpeux au goût des hommes. Donc ça, c'est un peu la dictature du goût des hommes, du dessinateur ou de la boîte d'édition qui se dit « Tiens, on va prendre l'anatomie préférée du moment. » Mais en même temps, c'est souvent des dominatrices, c'est-à-dire Catwoman. C'est pas une soumise, hein. Elle a beau être en combinaison intégrale, on voit bien que c'est elle qui a le fouet. Poison Ivy, Harley Quinn, ce sont des femmes rebelles, sauvages, qui n'en font qu'à leur tête et qui ont raison, vous voyez ce que je veux dire. Donc,
elles sont
effectivement fétichisables, mais ce sont quand même fétichisées. Mais en tout cas, elles sont des figures de domination, de ouais, potentiellement. Même d'ailleurs Wonder Woman,
dans son genre, bien sûr.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit dans le cosplay. J'ai fait le pareil, j'y pensais pas forcément, vu que ça cartonne énormément. Et en fait, ouais, en le disant trop, je vois dans les jeux vidéo, etc. Même récent, genre, je sais pas s'il y a des gens qui jouent à Overwatch dans la room, mais il y a une personne qui s'appelle Diva qui est tout en combinaison, etc., et qui dans le monde du cosplay cartonne à mort. Et on écoute la 7e symphonie de Beethoven en même temps que je parle. Et ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais t'avais l'impression de marcher sur des œufs quand tu le disais. Parce qu'on t'a déjà dit non, pas du tout.
Mais non, c'est pas ça. C'est quoi. Dès qu'on parle de communauté, c'est difficile. Il y a des communautés qui veulent. Il y a des gens qui ont un communautarisme refermé et d'autres qui ont un communautarisme ouvert. Et moi, je voudrais que ces personnes, que ceux qui sont fans du cosplay et qui trouvent que je dis de la merde, se rassurent. J'impose pas cette opinion sur tous les cosplayers. Je constate simplement que ce sont des milieux poreux les uns pour les autres aujourd'hui.
Oui. Axel.
Oui, parce que c'est vrai que les soirées BDSM, il fallait absolument avoir le dress code. Et le dress code était toujours le même, à savoir cuir, vinyle ou latex.
Et noir, en plus.
Et si tu venais, comme moi j'adore parfois, en kigurumi, eh ben, tu ne pouvais pas rentrer. Et il est vrai que depuis quelques années maintenant, on assiste à un décloisonnement et maintenant il y a des soirées SM qui sont organisées sans forcément que tu revêtes ta tenue fétichiste. Et donc il y a, je dirais, une dichotomie maintenant entre le BDSM et le fétichisme de la matière, cuir, latex ou vinyle.
Et ça a tendance à se dissocier maintenant, c'est ça ?
Maintenant, on accepte la dissociation.
On accepte la dissociation.
On accepte la dissociation, elle est bienvenue. Et c'est vrai que parfois, vous pouviez aller en soirée avec des costumes magnifiques et être refusé parce que vous n'aviez pas. Il n'y avait pas la matière fétiche dédiée au BDSM. Ouais.
Ce qui, du coup, me fait réaliser qu'on a commencé à utiliser le terme fétichiste qu'avec les matières, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est latex, vinyle, cuir. Après, on réfléchit à l'aspect de la tenue. Mais finalement, dans les débuts, le mec qui arrive avec un pantalon de moto et son blouson de cuir, il est OK, quoi.
Ouais.
Simplement parce que c'est la matière la clé. Or, on parlait tout à l'heure des éventuels fétichismes féminins en expansion ou masculins déjà existants. Mais je veux dire, dans le Marquis, dans le Bal de Venise, bon, voilà, par exemple, mais aussi dans l'univers des Mille et Une Nuits, mais aussi dans la relation entre la geisha et le samouraï, il y a choses qui peuvent être érotiques pour les femmes. Et on essaye de les trouver. Je pense qu'il faut que vous et nous essayons ensemble de les trouver maintenant.
Ça, c'est sûr.
Il y a Love in Paris qui nous dit le wet look aussi. Ça cartonne beaucoup. Si tu peux dire ce que c'est que le wet look.
Le wet look, pour moi, c'est la réappropriation des matières fétichistes par la mode prêt-à-porter.
C'est effet mouillé, parce que du coup,
oui,
wet...
Oui, c'est ça, c'est l'effet mouillé. C'est du lycra, en fait, qui est, je sais pas, plastifié ou je sais pas quoi, et qui donne ce côté un peu wet.
Ça ressemble un petit peu à certaines matières brillantes du fétichisme. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'on va jusqu'à... Enfin, j'ai croisé récemment une paire d'espadrilles wet look à clous.
D'accord.
Et là, on commence à être carrément sur le lol de la reprise, enfin de la récupération du BDSM par le prêt-à-porter. Là, ça commence à être une blague.
Mais si tu veux une liste des différents fétichismes qu'on peut trouver, donc les plus courants sont évidemment le pied propre ou le pied odorant. Il y a beaucoup de fétichisme aussi sur les odeurs.
Sur les odeurs, ouais. Olfactif,
donc
c'est bon, t'es dedans.
Ouais. C'est dedans, c'est bon. Ouais. Le collier.
Bah, le collier, mais l'odeur du sexe, c'est aussi assez important.
On en revient aux culottes sales de Joseph tout à l'heure.
La chaussure, le talon, la botte cavalière, la matière, latex, fourrure, le pull mohair, la jupe écossaise.
Évidemment.
Ouais.
Évidemment. Le zentai, le sneakers, le mi-bas aussi, hein, qui peut...
En laine ?
Dans le mi-bas, tu sais, la chaussette...
Oui, je vois, c'est plus le truc d'étudiante, tu sais, un peu en coton, ouais, d'écolière.
C'est ça.
En coton, en laine, enfin, ouais, oui.
Et puis après, bah, tout ce qui est lié aussi au caviar, ce qu'on appelle le caviar et le champagne, donc les matières organiques. Voilà, c'est une grande liste de ce qu'on peut trouver et des principaux qu'on applique dans le cul.
Il a bien bossé ton soumis, hein. C'est lui qui
t'a... Non, ça c'est moi, regarde.
Ah, c'est toi.
Ça c'est moi, regarde.
D'accord, c'est toi.
Tu m'as fait repenser que les mi-bas, j'ai rencontré à plusieurs reprises des femmes qui avaient un goût assez prononcé, disons-le comme ça, pour les chaussettes et fixes chaussettes.
Oui.
Donc vous voyez, on n'est pas très très loin d'une symétrie avec le porte-jartel dans cet objet. Et avec le mi-bas également. Donc je pense vraiment qu'il s'agit de les découvrir et de les nommer plutôt que de penser que les femmes n'en ont pas.
Il y a aussi un côté dans le fétichisme un peu honteux. C'est-à-dire que, tu vois, avouer à ton partenaire que tu adores les mauvaises odeurs de pieds...
On ne l'a pas abordé, ça, le côté honteux, la honte dans...
Bah,
on
parlait déjà des dedans. Hommes qui avaient honte de se faire pénétrer. Bon, c'est pas le fétiche.
Mais c'est appliqué au fétichisme aussi. Hein.
Bien sûr.
Et alors, un fétichisme qui est assez courant... Mais, alors, moi, je connais plus le fétiche masculin, mais c'est l'homme qui porte les sous-vêtements. De sa mère et de sa femme aussi. Hein. Enfin, moi, j'en ai quelques-uns qui viennent avec les sous-vêtements de leur femme et qui sont tout contents de les porter.
Ouais,
ouais. Le fait d'avoir cette matière sur soi, et aussi, il y a le côté transgressif.
Ouais.
C'est-à-dire, enfin, j'ai souvenir de quelqu'un qui avait qui officiait dans un cadre extrêmement catholique, tu vois. Et lui, son kiff, c'était de porter ses sous-vêtements en dessous de son costume et d'assister à une réunion publique, tu vois, où il prenait la parole.
Et lui, savait.
Et il savait qu'il était habillé, tu vois. Avec
alors, ça, c'est pas gentil pour Laurent Wauquiez.
J'ai connu une dominatrice qui avait un soumis qui était commandant de gendarmerie et qui avait pour mission quotidienne d'aller au travail avec sous son uniforme les portes-jartelles et les bas.
C'est extraordinaire.
Qui ne s'en lassait pas, qui en redemandait quand elle oubliait de lui demander. Quoi.
C'est génial. C'est génial. C'est vraiment, j'adore.
C'est ça. Ou alors la cage de chasteté que l'homme va pouvoir porter.
Mais là, est-ce qu'on n'est pas dans la situation, encore une fois, plus que dans l'objet?
Les six premiers mois? Vous voyez ce que je veux dire?
Il a raison, les six premiers mois.
Ouais.
Parce que enfin, d'après le DCM, etc., ta paraphilie, si elle perdure au-delà de 6 mois, ils considèrent que c'est une maladie mentale et qu'éventuellement, tu peux te faire soigner si c'est incapacitant pour toi.
Il y a aussi le fétichisme des couches culottes, on nous dit dans la room.
On est avec les bébés.
Mais c'est plus... Alors, au-delà de la couche culotte, c'est de faire dedans.
Oui, ça se gâteau d'abord.
Et d'être bien, en fait, dans sa merde, comme tu pouvais l'être quand tu étais bébé, en fait.
D'accord.
Parce que c'est chaud.
Voire de se faire gronder, mais c'est pas grave, c'est quand même le même biais.
D'accord, ok. On va passer du caca au cuir. Ça commence presque pareil. La transition est ouf pour
ouf,
toi.
La transition, là.
T'as tiqué, quoi.
Ah oui, là, de malade. T'as pas le droit au jingle. Hein.
ta colonne vertébrale, elle a tremblé. Quoi.
Ah oui, t'as senti la vibration,
ça,
là.
Grave. Ouais. T'as amené plein de choses autour de la table, Paolo.
Ouais.
C'est ton travail et ça sent extrêmement bon parce que c'est du cuir. Et toi, ta passion...
Moi, ma passion, c'est le cuir. Voilà, c'est le cuir, c'est de jouer le peau contre peau.
Et tu fais tout toi-même?
Et je fais tout moi-même, oui, bien sûr. Je travaille des matières sans produits chimiques. Je vais à Poitiers chercher mes peaux. C'est du cuir au tannage végétal que je vais ensuite couper, teinter, marteler, mettre en forme. Voilà.
Ah, ça sent bon.
Ça sent hyper bon.
Oui, ça fait révélation. Partie du fétiche du cuir. En
fait, mais évidemment. Voilà.
Bien sûr, l'odeur.
C'est l'odeur du cuir.
On parlait de Catwoman tout à l'heure avec son fouet. Là, voilà. C'est un fouet en cuir
de kangourou.
De kangourou.
Voilà, ça, c'est un petit flogger en cuir de kangourou.
Et tu m'as dit que c'est l'un des cuirs les plus résistants, c'est ça?
Oui, bah c'est le cuir qui est utilisé pour faire les fouets.
Le cuir de kangourou, je l'ignorais. Je ne sais pas si tu savais, toi, Flore.
Non, si, les
fouets sont faits en cuir de kangourou.
Ça sent moins le kangourou, c'est normal?
Il a beaucoup travaillé, celui-là. Hein.
D'accord, voilà. Très bien.
Non, en fait, le kangourou, il sent quasiment pas.
Il sent quasiment pas.
Ça, c'est lié au traitement. Parce que le kangourou ne peut pas être traité comme le cuir classique en végétal.
Tu as ramené quelque chose d'extrêmement viril et qui est une première
est juste devant toi. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est tout nouveau, ça. Oui, ça. Voilà. Je viens de rentrer cette matière. C'est du crin de frison.
le frison étant un cheval. Et du coup, je me suis amusé à faire... voilà, ça, c'est une pièce unique que j'ai sortie. C'est un martinet. Voilà. Un martinet en crin. Et c'est vrai que c'est très viril parce que...
Extrêmement viril, ouais.
Bon, en plus, ça peut servir parce que si on manque un peu de chevelure, on peut faire quelque chose avec.
Mais grave.
Oui, enfin, c'était le but premier au départ. Hein. Quand j'ai rentré le crin, je me suis dit que j'allais me faire une perruque. Mais c'était pas mon boulot. Donc du coup, j'ai fait un martinet avec.
On nous dit dans la room, hein, c'est extrêmement beau. Ceux qui nous écoutent en podcast, bah, vous pourrez revoir les extraits de cette émission sur nos réseaux sociaux. C'est très beau, on nous dit. Ouais, c'est vraiment très joli. Alors, j'étais extrêmement maladroit. Je m'en fous, je m'auto-balance, moi, avant
mais
cette
non,
émission.
Mais non.
Il montre ça, je fais... C'est du synthétique, ça.
Ça n'existe pas, ça. Non, non, non. Non,
tu,
non,
t'es,
non.
Tu t'es un peu vexé, tu as eu raison, parce que c'est...
Non, 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 c'est très beau. Que des matières naturelles.
Mmh, c'est très beau, c'est très beau.
Et du coup, Paolo, tu as envisagé l'hypothèse qu'ils finissent comme un accessoire de Pony Play?
Oui, mais j'ai envisagé, mais je n'ai pas aujourd'hui les moyens de mettre des bois arrondis dessus, parce que d'accord, c'est un manche inox et je travaille très mal le métal. D'accord. Moi, je travaille vraiment le bois, le cuir.
Ça rentre, ça, pour toi, Axel?
Oui, oui. Voilà. Bien sûr. Alors, bien sûr.
Non, mais c'est une question de... Après, c'est une question de nettoyage.
C'est une question de volonté.
Temps, mais...
Il faut juste...
C'est une question de volonté.
Eh, c'est dans la tête. Hein. C'est dans la tête.
Il faut mettre un préservatif, oui.
Un préservatif.
Mais après, les préservatifs, ils sont huilés.
Alors tu enroules avec la fameuse le film étirable.
Ah oui, c'est vrai, ton film.
Et après tu mets le préservatif.
En fait, il faut être trois pour s'en servir. Toi, tu fournis le film.
Non, non, il faut fournir une partie.
Non, non, il faut juste croiser nos techniques.
Il manque le modèle, mais peut-être que Benjamin va se proposer.
Non, écoute, je suis pas.
J'ai eu oui dire que tu étais un grand pratiquant. Oui, on m'a dit que tu aimais prostatique.
Et on en parlera la semaine prochaine, notamment. Ouais, je suis un fervent défenseur de la découverte du.
Mais tu as tellement raison.
Du plaisir prostatique.
Tellement raison.
J'allais dire pour les mecs, mais c'est très con ce que je viens de dire. voilà. En tout cas, toi, tu me dis ça rentre, Axel.
Ah oui.
D'accord. En entier, hein.
C'est un peu rigide sur la fin.
Parce que pour le pony, ouais, à la fin, il y a une butée quand même. Mais, mais pour le pony play, il faut vraiment que ça rentre pour que ça fasse
effet. Il faut
quoi.
Que ça tienne.
Surtout. Tu peux le rentrer jusqu'au métal, à mon avis.
Ouais, à mon avis aussi.
Enfin, tu peux pas le rentrer au-delà.
Oui, on parlait bien avec Polo d'une autre terminaison, mais avec du crin de frison, forcément, on pense.
Oui, avec
frison,
un plug.
Frison, c'est le destrier frison, hein, donc on parle du crin d'un vrai cheval. Donc forcément, les amateurs de pony play peuvent que flasher sur
la
sincérité de la matière. Quoi.
Oui. Ouais, ou avec beaucoup de lubrifiant, on nous dit aussi dans la roue. Mais ouais, bah, ça va.
Ça va avec.
C'est pas. Ouais, c'est.
Avec,
c'est
le plaisir.
L'un avec l'autre, quoi. Non, c'est très joli. Rappelle-nous le site internet où on peut acheter.
Caresse de cuir.
Et Flore, si tu peux montrer ton collier, qui bien est vraiment. Sûr. Moi, j'en ai aussi un ici. Qui c'est quoi l'intérieur? C'est du velours, non? C'est
du cuir, toujours.
C'est que du cuir?
Oui, que du cuir.
C'est extraordinaire.
C'est cuir intérieur, cuir extérieur. À l'intérieur, c'est du cuir velours pour que ça soit doux. Et l'extérieur, c'est du cuir au tannage végétal que je teinte.
C'est très joli. Voilà, moi, je peux pas dire mieux que c'est très joli.
Merci.
En tout cas, merci beaucoup. En plus, c'était cool.
Merci
si vous allez encore connaître du travail, tu es venu l'année dernière. J'ai beaucoup de mal à faire cette phrase. C'est horrible. Pardon. Hein.
Yo, je suis venu l'an dernier.
T'étais venu l'année dernière dans l'émission et tu avais parlé de ton travail. Ouais, on a fait des cordes. T'avais fouetté des gens.
Bah oui, j'étais venu avec mes martinets. On avait fait une petite démo de. Petite démo de martinet, tout ça, oui.
C'est parce qu'il y a des gens qui demandent, là, il faut fouetter les gens, machin, tout. Et
pourquoi il faut fouetter les gens? Ils viennent, ils viennent et on va les fouetter.
Ils ont qu'à faire des bêtises, hein, s'ils sont jaloux.
Bah ouais, évidemment, venez, on vous fouette. Et puis,
ils viennent, on va les encorder, on va les fouetter.
Les gens,
mais on ne fouette pas les invités sur le plateau.
Non.
Voilà, qu'ils le sachent.
Évidemment. Voilà. En tout cas, voilà. T'étais venu l'année dernière, c'était cool. Revoyez les émissions et on pourra encore une fois apprécier ton travail. Et puis ton poignet.
Ton poignet.
Tout est dans le 8.
Le 8.
Le 8 du poignet.
Voilà.
Allez, avant de conclure cette émission, la news de la semaine qui nous vient de Marie-Claire. Et ouais. Et ben, Marie-Claire a 10 positions sexuelles pour perdre du poids. C'est hyper intéressant. Alors, il y a des. C'est beaucoup de sport. Hein. Alors, les préliminaires. Sachez que les préliminaires, c'est 90 calories. Si on les pratique pendant 20... Alors, j'ai Joseph qui fait le suricate, là. Ça l'intéresse. 90 calories si on pratique pendant 20 minutes.
Moi, j'ai horreur du mot préliminaire. Moi.
Ça ah ouais, fait pourquoi partie intégrante.
Bah parce que, voilà, ça laisse supposer qu'en fait, la pénétration génitale
et
l'aboutissement de tu prépares quelqu'un. Alors que la relation sexuelle, elle commence dès que tu dis bonjour, en fait.
Elle commence dès que tu as envie de là.
Là.
Doucement, quand même. Pas
tout est sexuel.
Voilà, les préliminaires, c'est 90 calories. Et le sexe oral, c'est 100 calories. Hein. Alors, bah, par contre, oui. Vas-y.
Bah, ça dépend.
Bah ouais.
Ça dépend.
Une fellation.
Parce que soit tu la dépenses, soit tu les gagnes ta calorie dans un sens oral.
Exactement, exactement. Ouais, mais tu gagnes quand même. Parce que si tu fais une fellation. Alors je parle pour les filles ou pour les mecs. Hein,
oui, fellation. Ils ont le droit de feller. Hein.
Oui, mais même si un mec avale, il gagne des calories, tu sais.
Et ben voilà, et ben j'ai calculé. C'est 20 calories l'éjaculation buccale. Si on avale, c'est.
80 en tout.
Voilà, donc t'es à 80. T'as 80. Tu perds quand même des calories si tu suces.
Le solde reste positif.
Ouf. Voilà.
Même si
le solde reste positif, mais il faut éviter d'avaler. Sinon, tu t'en perds un peu moins.
Ah bah, alors moi qui toujours mange un Mars quand je me fais sucer, enfin c'est l'enfer quoi. Je prends du poids quoi.
Essaye le jus d'ananas. Il paraît que ça se sent dans le goût à la fin.
Oui, on pourra parler du goût du sperme hein, dans une prochaine émission. En tout cas, moi ça m'intéresse. La masturbation, c'est 150 calories. Sachez-le, branlez-vous, hein, faites-vous du bien. Bah, je sais pas, par orgasme, hein, je pense qu'ils ont calculé comme ça. Tu sais, ils sont très pointus, Marie-Claire.
Hyper... Hein. Non, mais attends, 150 kilocalories,
c'est énorme. Beaucoup, hein.
150 calories.
C'est énorme.
Ouais.
C'est 15 minutes de course à pied, c'est énorme.
Ouais, mais c'est complètement faux, je serais maigre.
Tu te branles beaucoup?
Énormément.
C'est vrai?
Bah oui, j'ai que ça à faire.
D'accord. Donc quand on dit que Joseph est un branleur, moi je rectifie pas.
Complètement. C'est vraiment que je mange très mal pour être gros comme ça.
Le striptease, c'est 60 calories. Je sais pas comment ils ont calculé ça, les gars.
On se demande vraiment d'où ils ont sorti les chiffres. Je sais pas, ils ont demandé.
C'est Marie-Claire. Hein.
Ça, tout est dans la source, Marie-Claire.
Dans l'affirmation.
Ouais. Marie-Claire a demandé à ICI Paris.
Bah, attends, on va lui pourrir sa rubrique. Vas-y, continue. Non, c'est bien.
Mieux vaut se branler que faire du footing, nous dit duo de chevalier dans la room. C'est vrai, ils ont raison. Hein, tu le disais, Flore.
Faire les deux en même temps.
On peut faire les deux en même temps. C'est compliqué.
Là, ça devient une vraie performance.
Si t'arrives à bander dans l'effort en courant, Joseph, je sais pas.
Et les femmes.
Surtout qu'en plus, courir fait perdre l'érection puisque tu boostes ton afflux sanguin, donc il est plus concentré dans ta bite.
D'accord.
Si un jour tu as un problème d'une érection qui dure trop longtemps, tu vas
cours,
courir.
C'est vrai.
Puis tu finis par te retrouver masochiste du sport, tu cours 42 bandes tous les dimanches, t'es mal.
Et après, t'es fétichiste des t-shirts tout sales et tout. Non, mais ça peut être un cercle vertueux du plaisir.
C'est ça.
Bien sûr.
On va refaire l'émission.
Alors, en parlant de mission, il y a le missionnaire, c'est 200 calories, le missionnaire, d'après Marie-Claire, quand on pratique cette position.
Pour elle
pour lui. Bah c'est les hommes qui font
Non mais réfléchis bien pourquoi Marie-Claire nous explique aux hommes combien.
C'est la question que je me suis posée, mais non, il parle des deux en fait. Il parle dans le chapeau, il parle des deux. En fonction de la position.
Il y en a un qui dépense, l'autre qui dépense pas, non ?
Mais dans le chapeau de l'article, il parlait des deux, c'est l'un ou l'autre en fonction de la position. Par exemple, l'autre position, c'est pour la femme. C'est Amazon, la femme qui est au-dessus de toi. C'est 10 minutes d'Amazon, c'est 400 calories.
Mais non, n'importe quoi.
400 calories.
Alors ça.
Alors moi perso, en 10 minutes d'Amazon, c'est pas 400 calories que je perds, c'est 400 euros. Ouais, faut le savoir. Je m'auto-mets la batterie.
Ah ouais, c'est bien,
voilà, 400 calories, c'est énorme, 400 calories.
C'est pas possible. C'est une demi-heure de course à pied.
Tu peux faire ça en mangeant un Big Mac et zéro calorie de prix. Super.
C'est fou.
Voilà,
hein.
C'est
fou. Alors là, tu vas dire c'est faux, archi faux. Moi, si je fais ça,
tu fais des infos à tox en fait, Benjamin.
Je fais, mais ouais, grave. un malaise vagal, le 600 calories pour le sexe debout.
De quoi ?
600 calories.
Mais pourquoi il
n'y
a pas de virgule entre malaise vagal et
parce que
et
c'est Marie-Claire. C'est Marie-Claire, ils s'en foutent les gars, ils écrivent des articles et puis voilà quoi. Nous on se démerde avec ces infos.
Marie-Claire déconseille le malaise vagal.
Le coïtus vagus.
C'est tout, elle passe une info. C'est tout.
Voilà, exactement, merci Paolo. Moi je soutiens Marie-Claire, c'est grâce à eux que j'arrive à faire des news de la semaine. Et puis enfin, la dernière position sexuelle pour perdre du poids d'après Marie-Claire, c'est la brouette.
Ah oui, bah ça.
Ah ouais. Alors c'est comme une levrette, sauf que tu tiens les jambes de
ton partenaire. Pour les deux, c'est violent. Hein,
de ton
c'est
ou
simple.
De ta partenaire. Tu perds pas 600 calories, hein, tu perds avant tout ta dignité quand tu fais cette position, parce qu'elle est un petit peu chelou.
Petite précision, cellophané, tous ces chiffres sont à multiplier par 3.
Alors toi, t'aimes bien le cellophane, bah, du coup, oui, ouais, dans la pandiphilie.
En fait, je l'utilise plutôt comme un moyen que comme une fin en soi, c'est-à-dire que dans un certain nombre de jeux, je condamne la soumise ou le soumis à la position.
Ouais.
D'objet, et donc j'enferme cette position avec un moyen ou un autre de contrainte. Sauf que le shibari est chronophage, c'est-à-dire qu'on doit y prendre du temps, ouais. Et de l'application, on peut pas le faire ça à la va-vite, ce serait nul. Alors qu'avec le cellophane, je peux bâcler le truc, et c'est trop tard, c'est fixé, la personne est prisonnière. Vous voyez ? Et c'est pas onéreux, et voilà. Et puis, voilà, en plus, il y a un côté matière qui est intéressant, parce que le corps perd sa peau pour devenir un plastique transparent, ce qui est plutôt fétiche aussi, en soi.
D'accord, ok. Bah, c'est hyper intéressant parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu un témoignage d'une personne qui avait rencontré un mec, il y a très longtemps, ça l'a perturbé d'ailleurs, qui disait que son délire, c'était d'enrouler sa partenaire dans du cellophane. Donc ça rejoint ce que tu disais. Why not, pourquoi pas. Sauf qu'après, son délire, c'était aussi du pisser dans la bouche. Est-ce que tu as déjà connu ce genre de délire ou pas?
Les délires n'ayant pas de cloison, comme je le disais tout à l'heure, si quelqu'un est à la fois amateur de momification et amateur d'urophilie, je vois pas pourquoi il se priverait de mélanger les deux.
On peut combiner les délires.
C'est là qu'est la créativité, c'est que plus vous ouvrez de boîtes à fantasmes et plus vous avez de combinaisons entre eux. Hein, c'est comme je faisais le parallèle avec la cuisine tout à l'heure. T'es étudiant, t'apprends à cuisiner, tu fais que des pâtes bolognaises de merde. Plus tard, tu découvres la subtilité des épices, et plus tard, tu découvres qu'il ne faut pas en mettre 7 des épices, mais 3, et lesquelles, et comment ça... Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est les bons ingrédients,
c'est la même chose. Hein, c'est la même chose.
C'est les bonnes recettes.
Et donc, si quelqu'un a des pulsions urophiles, et par ailleurs fornifiles, on peut très bien envisager que l'objet en lequel je le transforme ne soit pas une table basse, mais un WC. Donc tout est possible, si vous voulez, ça dépend du gré à gré.
Mais bien
sûr,
et ça dépend,
bien sûr.
Joseph, il a l'œil qui
il est déjà le cerveau, il est retourné au Japon.
Mais qui c'est le fan?
Oui, quoi?
Voilà.
Axel, tu voulais rajouter quelque chose avant la fin de cette émission? Non, parce que ça t'a parlé, j'ai l'impression, le cellophane et l'urine. Tu voulais dire quelque chose?
Oui, parce que l'uro, c'est quelque chose qui est assez répandu.
Qui est au-dessus du dollar en ce moment.
Oh putain! Attends.
C'est un florilège.
Les gens sont fous dans la room, les gens sont fous de cet humour. Pardon, Axel.
Rien d'autre à rajouter sur les matières fécales et sur l'urine. Ouais, c'est des choses qui sont assez répandues. Enfin, qui sont assez répandues.
On est sur un basique.
Un basique, oui. Enfin, le caviar, quand même, il y a beaucoup... C'est assez bizarre, cette pratique, parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent.
Ouais.
Et j'ai du mal à y répondre, parce que je trouve que ça manque de... Enfin, sous mon prisme, hein, c'est mon prisme, évidemment, ça manque de poésie, on va le dire comme ça.
D'accord.
Mais là, je me retrouve avec des clients où, des fois, au final, je me retrouve... Enfin, au milieu d'une séance, tu te retrouves, en fait, plongé dans un univers. Et donc, je commence à jouer avec la matière fécale, etc., à la mettre sur le visage. Et je comprends un peu plus, en fait, cette dimension caviar qui m'était complètement étrangère il n'y a même pas 6 mois.
C'est nouveau.
Oui, c'est très nouveau. Et c'est, en fait, en côtoyant justement les amateurs de ce type de fétichisme que tu arrives à comprendre, en fait, et dépasser ce stade. Pour moi, ce n'était pas poétique. Mais au final, je me rends compte que ce qu'ils recherchent, c'est plutôt de retourner au stade de l'enfance et qu'ils sont là, assis au milieu de leur merde avec, tu vois, de... Enfin, bonjour.
D'accord, vraiment, c'est bien. C'est,
non,
bien.
Mais...
c'est frais pour t'amener cette émission.
Je suis désolée.
Non, mais
en fait, c'est un délire.
Je suis dans la merde, gentillisant.
Mais
c'est bien de le dire, parce qu'à mon avis, l'urophilie, t'es pas forcément dans le côté régressif, alors que peut-être...
Tu l'es beaucoup moins, l'urophilie, ouais. T'es dans l'eau, donc...
Ouais. T'es dans le fluide.
T'as le côté baptême, en fait. Tu vas baptiser quelqu'un, et alors que quand tu joues avec la matière fécale, là, tu retombes vraiment dans le stade de l'enfance. Mm. Et puis... de la part des soumis, t'as l'appropriation, en fait, d'une matière qui appartient à la maîtresse, qui est l'objet sanctifié, déifié, et donc ils s'approprient cette matière-là, la matière fécale ou l'urine, ou alors la petite culotte sale, le bas, etc. Et pour préparer l'émission, donc j'ai été faire un tour sur Vente à culotte, puisque je suis en fait l'évolution de ce site internet depuis quelques années, et en fait ce site a énormément évolué dans son ergonomie. Avant, donc, tu avais des photos de petites culottes, et puis tu avais les prix, etc. Et maintenant, quand tu arrives sur le site de Vente à culottes, tu as des photos, en fait, des personnes qui ont porté l'objet. Et en fait, ce que disent maintenant les personnes qui vendent leurs culottes sur le site, c'est qu'elles vendent leur image. Et que au final,
il y a une incarnation,
les
de
fétichistes
ça,
ouais, s'approprient en fait l'objet d'une personne qui est déifiée. Mm. Mm. Et ça a changé, ça a vraiment changé. Mmh. Je regardais aussi un pourcentage. Il y en a 72% qui se disent intéressés par l'objet. Et donc, il en reste 28% qui sont donc à la recherche de l'appropriation de cette... De l'objet de son culte.
Ce sera le mot de la fin. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Joseph, je t'embrasse partout parce que je te kiffe et je suis comme ça. Bah, peut-être pas en ce moment parce que t'as encore un chouïa comme ça, un chouïa malade. Flore.
Benjamin.
Bah, des bisous, je récupère ce
collier à la fin.
Ce collier après parce que je suis en kiff.
Tu vas être encore perturbé. Hein.
Non.
À tes risques
et périls. Non, j'étais agréablement surpris. Beaucoup de mal à parler ce soir. Sacha Bellamy, merci d'avoir été avec nous ce soir.
Un plaisir.
Tu te considères comme sexonaute parce que t'as pas réussi trop à trancher. Mais bah, écoute, c'est un néologisme. Voilà.
Ouais, je suis plein de choses, mais un mot générique me semble plus fonctionnel. Donc sexonaute me va très bien.
Axel de Sade, merci d'avoir été avec nous. Et puis Paolo, évidemment, Paolo, QRSM. Le nom de ton nouveau site internet, c'est
Caresse de cuir.
Caresse de cuir, voilà. On peut retrouver ces choses formidables. Voilà, il y a plein de choses, j'ai eu plein d'images mentales en tête. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet.
Ton sujet.
Quoi ? Ah non,
ton sujet fétiche.
Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul.
Placebo, indémodable. Ouais. Voilà, on va parler de plaisir prostatique. Ça va être trop bien.
Ouais.
Je suis trop content. Ouais. Il y aura un fan de l'émission, parce qu'on a des fans aussi, il faut le savoir, dans l'émission. Et notamment un, il s'appelle Kevin, et lui, il kiffe aussi ce truc-là, et de prendre la parole sur le plaisir prostatique, il en parle tout le temps, et donc il sera avec nous dans l'émission. Voilà. Mmh. Je l'ai convié, et entre autres, invité, qui viendront nous parler de cette chose formidable. Voilà.
Vous avez convié Adam aussi, parce qu'il a fait tout un traité sur la
téléphone,
névrose.
On l'aura au téléphone.
Lui aussi, c'est sa passion.
On l'aura par téléphone, ouais.
Ce serait intéressant aussi d'avoir une femme, justement, dont le conjoint... exprime ce désir dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, parce que c'est souvent le prisme par lequel on regarde moins le plaisir prostatique, finalement.
Et bah, tu pourrais nous conseiller une personne pour ce faire.
Voilà. Je domine mon mari, Séverine.
D'accord.
Qui. Je crois que tout est dans le titre, en fait.
Eh bien, super. Alors, on s'en parle en antenne. En tout cas, voilà, on fait des gros bisous. On dit bonsoir à la rampe. Vous avez été formidable. Beaucoup d'humour. C'est vrai que tu ressembles un petit peu à Didier Roustan. On te l'a déjà dit ou pas?
Non, pas encore, mais il y a un début à tout.
C'est vrai.
Je reviendrai quand même.
Franchement, c'est un truc de malade. J'ai pas pensé, moi qui aime bien les sosies en règle générale. Voilà, merci beaucoup. Merci encore, Flore. Merci encore, Joseph. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Et cette émission incroyable, elle est réécoutable
sur
quelques jours sur Deezer et sur iTunes. Et si vous nous écoutez déjà sur Deezer et sur iTunes, ben vous pourrez écouter les anciennes émissions ou nous retrouver en direct tous les lundis entre 21h et 23h sur white.com et sur Facebook. Allez, salut, bonne soirée, à la semaine prochaine.